Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Johan Bredov.
Et 14h06 sur RMC. Merci d'être avec nous. Salut à vous qui nous écoutez sur RMC jusqu'à 16h. Donc avec un énorme programme et notamment cette finale dames à Roland-Garros, évidemment, entre Gvalinska, la surprise de ce tournoi féminin, et Mira Andreeva. Début du match à 15h, 15h30 à peu près, avec tous les préparatifs et les cérémonies d'avant-match. Mais évidemment, on vous présente dans un instant cette finale, donc avec Eric Salio et Sarah Pitkowski en direct de la porte d'Auteuil. On parlera également de l'équipe de France. Mais oui, le foot à 10 jours de son entrée en lice à la Coupe du Monde face au Sénégal. L'équipe de France qui reste sur une défaite en match de préparation contre la Côte d'Ivoire, qui jouera lundi soir son deuxième match face à l'Irlande du Nord. On vous donnera toutes les dernières informations avec Valentin Jamin. On parlera également de la Belgique. Belgique qui affronte la Tunisie à 15h avec Jean Baumel en direct de Bruxelles. La Belgique, un des outsiders de cette compétition. On vous présentera aussi la demi-finale de la Ligue des Champions en handball entre Metz et Bucarest, les Messines qui vont essayer d'aller chercher pour la première fois de leur histoire une finale après 4 échecs lors des Final Four de leur histoire, donc pour Metz. Et présentation aussi des qualifications du Grand Prix de Monaco qui débuteront à 16h. On sera avec Nicolas Paolorsi en direct de la Principauté et Jean-Luc Roy qui commentera cette course. Énormément de choses à dire avec les Ferrari qui brillent pour l'instant sur les essais libres. L'Intégral Sport jusqu'à 16h, c'est parti. Et on file tout de suite, porte d'Auteuil, retrouver Eric Salio et Sarah Pitkowski. Salut à vous deux.
Un peu fort quand même.
Salut à tous.
Oui, Sarah.
Je suis là.
Ouais, elle est là, Sarah.
Pourquoi j'entends pas l'antenne?
Alors, on a un petit problème.
L'antenne, là, Sarah.
Ouais.
Ah, ben, je vous entends pas.
Mais c'est exceptionnel. Bah, Eric.
Ça commence fort, hein.
Tu feras le
mais en fait, c'est Eric, il a fait exprès de baisser le retour de l'antenne.
Je
si.
Touché à rien.
Si, si, je sens.
C'est bon,
je
Sarah, sens. T'es avec moi ou pas?
Oui, je suis avec.
Merci. Merci, Sarah, d'être avec nous. On est en direct, donc, de la porte d'Auteuil sur le court Philippe Châtrier. Et donc cette finale à suivre entre Maïa Kvalinska, la polonaise, et Mira Andreeva, la russe. Déjà, première info, il pleut sur Paris, il y a des gouttes, on attend, il y a des nuages gris en tout cas. La finale se jouera sous le toit, Eric.
Écoute, c'est pas sûr encore, hein. On va attendre le coup d'envoi. Ce qui est sûr, c'est que la finale du double messieurs tout à l'heure s'est déroulée en indoor. Mais effectivement, je pense que les organisateurs vont pas prendre de risques. Actuellement, là, on est le central est désert, puisque il a été ouvert au public depuis quelques minutes, mais le toit a été déroulé, effectivement. Donc, je pense que oui, sans prendre trop de risques, ça va se dérouler avec le toit.
Oui, quand même, ils vont pas défaire le toit. Une fois que ça commence avec le toit,
non, enfin, après, bon, on c'est toit. Quand même un tournoi extérieur.
Bah, oui, je sais. Oui.
Non, mais il y a une polémique là-dessus, parce que c'était le match entre Kohoboli et Oji Aliassime. Ils ont fermé le toit à la fin du premier set. Alors qu'il ne pleuvait pas dehors.
Oui, et alors qu'ils étaient en train de jouer. Ils l'ont fait en direct même. Ah oui. Ils n'ont pas arrêté le jeu.
D'accord. Bah ça gêne pas les joueurs. C'est bizarre, quand même.
C'est troublant.
Bah, voilà. Oui, mais en fait, comme le toit avance vraiment, vraiment tout doucement, et que ça ne fait pas de bruit, et puis qu'il y a une hauteur...
La luminosité change quand même, ça.
Oui, la luminosité change, oui, absolument. Mais bon, on a encore 50 minutes avant le coup d'envoi du show de la finale. Et donc, on verra s'ils ouvrent ou pas. Mais le temps est pour moi trop menaçant pour qu'ils prennent le risque de le rouvrir. Donc, on jouera sur probablement avec le toit, avec des conditions humides, donc lentes.
Oh là, je la vois venir, là.
Oui, bah oui, tu me vois venir. Avec des balles qui sont quand même assez... En tout cas, elles font polémique, hein, quand même, ces balles. C'est-à-dire que quand il fait beau, il n'y a aucun problème. Mais dès que c'est humide, elles deviennent des pelotes de laine. Et on voit, c'est-à-dire que même la terre battue ne s'enlève plus de la balle. C'est-à-dire qu'elle devient, rougeâtre. Donc forcément, les balles sont lourdes. Donc pour le joueur ou la joueuse qui frappe fort et qui a besoin de vitesse pour déborder son adversaire, il n'est pas super avantagé.
Ah, tiens, ça pourrait nous donner...
La voix venir, là, tu trouves
oui,
pas
oui.
Ah oui, ça pourrait nous donner quelques clés pour cette finale entre Maïa Kvalinska et Mira Andreeva. Donc, finale qui débutera aux alentours de 15h30, avec tout le show dont tu parlais, Sarah, juste avant. Ça prendra un petit peu de temps, mais on aura le temps d'en parler plus en détail de cette confrontation entre les deux joueuses. Ce que je vous propose d'abord, c'est de revenir sur ce qui s'est passé durant cette quinzaine à Roland-Garros. On savait que le tableau était ouvert... Mais peut-être pas à ce point-là quand même. C'est une finale hyper surprenante entre ces deux joueuses, Eric et Sarah.
À partir du moment où Aryna Sabalenka a perdu la tête, c'est vrai que, bah déjà dans l'ordre chronologique, c'est la première grosse disparition, c'était Elena Rybakina, oui, battue dès le deuxième tour.
Tête de série 2.
On n'en faisait pas une favorite du tournoi, hein, clairement, mais Sabalenka avait une sorte de tapis rouge devant elle, et puis ça a coincé de manière inexplicable. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles de Sabalenka. Est-ce qu'elle est allée dans cette fameuse salle où on casse tout là? Parce que
je sais pas, mais en tout cas sur ses stories pour l'instant, elle nous fait des stories à la mode et dans son hôtel avec son chien, oui, avec son mari. Donc je pense qu'elle passe à autre chose assez facilement, cette jeune demoiselle.
Ah, je suis pas sûr. Sa conf de presse était pleine d'honnêteté, disait je veux quitter le tennis. Bon, ouais. Non, mais c'est vrai que ce match contre Schneider, c'est le moment fort de la quinzaine, parce que ça a ouvert le tournoi de manière incroyable. Schneider n'a pas pu franchir l'obstacle Radinska, et puis dans le bas de tableau, saluons quand même l'extraordinaire parcours de Mira Andreeva. C'est une prodige, hein. Moi je me souviens, j'avais interrogé l'un de ses premiers coachs français, Jean-René Lisnard, lorsqu'elle était à l'académie à Cannes. Il me disait, elle va en gagner, c'est évident, elle va gagner des majeurs, elle est faite pour ça.
Bah, elle était déjà en demi il y a 2 ans, ouais, donc à 17 ans, elle était déjà en demi de Roland-Garros, ça la surprenait elle-même. Là, elle est plus dans l'installation du plus haut niveau et elle prend conscience de son potentiel. Mais c'est vrai qu'on a quand même été un peu déçus de Coco Gauff, on a été déçus aussi de Sabalenka, on le dit, hein.
Świątek aussi, hein.
Et de Iga Świątek, absolument. C'est la quintuple, non, comment on dit, quatre.
Quadruple
vainqueur ici, et qui a du mal à retrouver ce tennis qui était tellement gênant sur terre battue. Elle est devenue fragile, nerveuse sur cette surface, c'est étonnant. Donc oui, il y a, après on attendait aussi Svitolina, mais je pense que la bataille Svitolina-Kostyuk, elle a été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre en quart de finale. Que vous dire d'autre en surprise, c'est déjà pas mal, hein.
Ouais, c'est déjà
Anisimova, pas mal. Diane Parry qui bat Anisimova, ouais. Anisimova numéro 6 mondial, mais qui n'avait pas joué depuis Miami parce qu'elle avait un problème au poignet, elle aussi elle a complètement dégoupillé à la fin du match. Donc oui, un tableau féminin surprenant et qui s'est ouvert en effet.
Et ça, c'est une bonne chose pour le tennis féminin, justement, qu'on ait de telles surprises comme ça, qu'on ait la tête de série 8 du tournoi. Alors, évidemment, on connaît le potentiel et le talent de Mira Andreeva, mais surtout Rvalinska, qui sort des qualifications, qui a une histoire toute particulière, elle qui a subi une dépression en sortant des juniors, qui a eu du mal à confirmer, qui était dans l'ombre d'Iga Świątek, et qui finalement, comme ça, perce sur ce tournoi de Roland-Garros. C'est plutôt une bonne nouvelle, quand même, d'avoir des surprises comme ça pour le storytelling.
Moi j'adore.
Oui.
Personnellement, j'ai adoré la demi-finale entre Rolinska et Schneider.
Et Schneider,
parce que
oui,
c'était presque un tennis d'un autre temps où la tactique était ultra importante. Cette fille, je le répète, mais c'est peut-être une expression que les gens comprennent pas. Elle a un QI tennis, donc un quotient intellectuel tennis, mais extraordinaire. Parce qu'elle sait faire plein de choses. Et comme l'a dit son coach qu'on avait rencontré jeudi soir, elle met les autres joueuses dans l'inconfort, Sarah. Et c'est ça qui est magique dans sa patte gauche.
Et oui, parce qu'elle a un tennis. Alors, on pourrait penser qu'elle a un tennis atypique. Mais non, il n'est pas atypique. Il est juste différent. Parce que sa technique, elle est nickel. Mais elle sait faire des choses totalement différentes de la grande majorité de 95% des joueuses. Donc, elle les oblige à réfléchir. Alors, quand tu poses la question de savoir si c'est bien pour le tennis féminin, oui, à condition qu'elle continue.
Oui.
Parce que forcément, quand on voit Rybakina aujourd'hui, ça nous fait penser à une certaine Emma Raducanu qui avait traversé le tableau de l'US Open en sortant des qualifications. Elle était 150e mondiale 2022. J'ai un doute sur...
Non. C'est si vieux que ça, non, 21.
21, ouais, je 21, pense. Oui. Mais depuis, Raducanu, elle est totalement aux abonnés absentes. C'est-à-dire qu'elle a signé des dizaines et des centaines de contrats. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas tenu du tout son rang. Elle est même pas dans le top 30. Donc, c'est vraiment compliqué, hein, pour Raducanu. Donc, oui, l'histoire, elle est chouette. C'est une très belle histoire et ça nous fait raconter des choses. Mais il faudrait que derrière ce Roland Garros incroyable qui peut peut-être s'achever avec la Coupe Suzanne Langen puisse continuer. Bah, pour
la
l'instant,
question, Sarah, est-ce qu'elle peut reproduire le même tennis
sur d'autres surfaces? Oui, ça c'est la grande question parce qu'elle a déjà gagné une, deux, trois tournois sur terre battue. C'est ses trois meilleurs résultats. D'ailleurs, elle monte en qualité de tournoi qu'elle remporte, mais c'est toujours de la terre battue. Donc, à voir si elle aura un jeu qui s'adaptera sur les autres surfaces. Et pour revenir sur le tennis féminin en général, il faut faire attention. Les gens ont besoin de retrouver quand même certains noms dans les derniers carrés parce qu'ils ont besoin de se projeter, parce que un nom qui revient des oppositions, eh bien, on crée des histoires aussi. Et on sait que le tennis féminin en a vraiment besoin. Quand il y a eu le temps des Belges contre les sœurs Williams, et puis avant, il y avait les oppositions de style entre Graf et Sanchez, et puis après, il y a eu le tennis léché de Martina Hingis face au jeu stéréotypé de Monica Seles. C'est-à-dire que chaque groupe d'années, il y avait des joueuses qui marquaient, et c'est vrai que après il y a eu j'ai perdu aide-moi la Russe,
c'est dingue,
Sharapova, pardon, Sharapova. Oui, Maria Sharapova qui finalement on pensait jamais qu'elle puisse gagner à Roland Garros parce que son tennis n'était pas du tout adapté, et puis elle est venue chercher ce titre. Donc oui, Sabalenka, il faudrait qu'elle gagne Roland Garros quand même, hein. Et la chute et l'émotivité de Sabalenka n'a pas du tout été rassurant sur ce qu'on a vu en quart de finale face à Diana Schneider.
Comme chez les garçons, la numéro 1 mondiale n'a toujours pas gagné un chelem. On est à 1000.
Oui, depuis le début de la saison.
Oui. Aux Sabalenka, ils sont à zéro. Donc non, c'est très ouvert. Maintenant, ce qu'on peut redouter, là j'ouvre un débat, parce que on a souvent eu des finales ultra rapides, Sarah. Est-ce que c'est pas le moment,
le risque,
de tenter une finale en 3-7 gagnants?
Je pense que
physiquement, ces filles sont capables de tenir la distance.
Tu sais quoi?
Ça, c'est mon avis.
Je pense que c'est même plus un débat aujourd'hui. Je pense que c'est à l'étude. Non, je pense que c'est à l'étude. Vraiment, c'est à l'étude.
C'est un scoop, hein, t'entends là?
Oui, c'est à l'étude parce que j'ai entendu les anciennes grandes championnes commencer à en parler de plus en plus. Aujourd'hui, il y a une chose qui est, c'est que les quatre grands chelems veulent s'aligner sur leur règlement. Par exemple, le super tie break dans la dernière manche, ça l'a pas été sur tous les tournois. Ça a été joué à l'US Open avant que ce soit appliqué ici, puis à Wimbledon. C'était un tie break normal à l'Open d'Australie. Donc, ces quatre grands chelems qui sont hors circuit WTA et ATP se rencontrent, et je pense que c'est en discussion. Et si ça se fait, ce sera aligné sur les quatre tournois du Grand Chelem.
Depuis 2003, à Roland, 14 finales se sont déroulées en 2-7, et parfois 2-7 très rapides.
Oui. Ouais.
Et moi, ça me gêne. Il y a la notion de spectacle, il ne faut pas l'oublier.
Bah, bien sûr.
Alors, hier, il y a eu un cas malheureusement terrible, à savoir l'annulation de la deuxième demi-finale. Il faut savoir qu'il y avait double billetterie. On a vu des gens qui étaient effondrés parce qu'ils avaient fait le voyage à Paris pour cette deuxième demi-finale, et quand ils sont arrivés, on leur a dit, il n'y aura pas de match. Donc c'est dramatique. Et chez les filles, parfois, tu sors du match, t'es frustré, quoi. Ça a duré 1h10, 1h20, tu te dis, bah, c'est déjà fini, quoi.
Mais on se rappelle certaines finales avec Świątek, où ça allait très vite, oui.
Bah, Świątek, Coco Gauff, 6-1, 6-3 en 2022. Świątek, Paolini en 2024, 6-2, 6-1. J'en ai d'autres en magasin, hein.
Ah oui, on en a un certain nombre, hein. On peut remonter dans les années 2000 aussi.
Que ces dames évoluent un petit peu, je trouve.
Il y a une finale en 2005, Justinina Marie Pierce.
1-1.
1-1.
6-1, 6-1. Ouais, donc tu vois.
Ouais,
on s'attend pas à ça quand même. Rassurez-nous, Eric, vends-nous cette finale quand même entre Radinska et Andreeva. Avec ces conditions de jeu un peu lentes quand même, on peut se dire que ça peut durer. Peut-être que la tambouille que va proposer la Polonaise va gêner la Russe.
Sauf qu'elle est sur le flanc depuis le 18 mai, oui. Notre petite polonaise, notre gauchère polonaise, que Mira Andreeva, je trouve qu'elle est un peu en mission. Elle a Conchita Martinez à ses côtés, et nous, on était en tribune lors de la deuxième demi. On a bien vu que Conchita Martinez s'est placée tout en haut de la tribune des joueuses. Elle n'a pas besoin de carnet, hein, mais elle a pris ses notes dans sa petite tête parce qu'ils ne la connaissent pas. cette polonaise. Donc va falloir.
Et même si tu la connais, ce qui s'est passé avant Roland Garros, c'est-à-dire que là, en 9 matchs, elle a forcément progressé et elle a pris confiance en certains coups. Donc quoi qu'il arrive, il faut aller regarder quelles sont ses armes aujourd'hui sur ce tournoi de Roland Garros.
Imagine qu'elle commence cette finale avec une campagne d'amorti gagnante. Je veux voir la réaction d'Andreeva, qui est réputée un peu nerveuse, émotive. On se souvient de son bras d'honneur au spectateur d'Indian Wells au printemps dernier. C'est une fille qui veut découpiller.
Oui, et puis à Madrid, elle disait ouvertement, je suis pas une joueuse, je suis pas une bonne joueuse, je suis pas une championne de tennis, je vais perdre, je vais perdre.
Elle peut être très négative.
Oui, elle révèle là sur cette dernière conférence de presse qu'elle a beaucoup travaillé, qu'elle sent qu'elle est en train de basculer du statut d'adolescente à adulte et qu'elle, en fait, c'est un peu étrange, mais elle dit. Je fais enfin confiance à mon staff. Tu vois, j'écoute. Oui, mais ça, je peux vous dire, et ça, je l'ai vécu, il n'est jamais évident de faire passer des messages à une joueuse de tennis. C'est un peu têtu. Hein. Et puis alors, pour peu que vous donniez des indications et que l'indication ne fonctionne pas immédiatement, alors là, aujourd'hui, et là, c'est des vagues de reproches.
C'est vrai qu'il y a, beaucoup de changements de coach chez les filles.
Parce que...
Regarde Swiatek, elle en a épuisé un paquet depuis quelques temps.
C'est très difficile d'arriver à faire passer un message et que la joueuse, elle fasse confiance au staff. C'est du style, tu me dis quelque chose, mais qu'est-ce qui me prouve que ce que tu me dis, ça va fonctionner? Non, mais je vous dis ça parce que je fonctionnais comme ça et on est toutes à fonctionner comme ça. Donc, c'est un vrai travail... presque plus de la joueuse que du staff, d'accepter de dire j'ai les moyens de choisir mon staff, quitte à si je le choisis, autant l'écouter. Quoi.
Dans une heure, début de cette finale donc entre Maja Rybańska, la polonaise, face à Mira Andreeva, on aura le temps d'en reparler donc de cette finale, vous présenter encore plus en détail ce match entre la polonaise qui est 114e mondiale, énorme surprise de la quinzaine à Roland-Garros et Mira Andreeva, 8e à la WTA. Merci Sarah, merci Eric, on se retrouve tout à l'heure, 14h23 sur RMC. Dans un instant, on va parler de l'équipe de France de football à 10 jours de son entrée en lice à la Coupe du Monde face au Sénégal. Où en sont les Bleus? C'est la question qu'on posera à Valentin Jama, notre reporter, qui va faire son entrée dans le studio dans un instant. Une pub et on revient pour parler de l'équipe de France. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Johan Bredov.
14h27 sur RMC dans l'Intégral Sport jusqu'à 16h dans un peu plus de 30 minutes. Début de la cérémonie avant la finale dames à Roland-Garros entre Rybańska et Andreeva. Évidemment, on suivra attentivement cette finale. Mais d'abord, on va parler de l'équipe de France de football qui jouera lundi face à l'Irlande du Nord. Le dernier match de préparation avant la Coupe du Monde qui débute dans 5 jours avec le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud. La France, elle, fera son entrée en lice le 16 juin contre le Sénégal. D'ailleurs, RMC Radio officielle du Mondial. On sera sur toutes les rencontres avec une antenne délocalisée à New York, avec les nuits de l'after, des débats, les matchs toute la nuit, une radio digitale aussi, également entièrement dédiée, 100% Coupe du Monde. Et donc, je le disais, l'équipe de France, ultime répétition lundi pour les Bleus. On est avec Valentin Jamin, reporter pour RMC qui est là. Salut Valentin.
Bonjour Johan, bonjour à toutes et à tous.
Évidemment, tu as suivi attentivement ce qui s'est passé pour les Bleus. La France qui reste sur une défaite 2-1 face à la Côte d'Ivoire à Nantes. Aucune inquiétude à 10 jours du Mondial pour les Bleus?
Non, l'idée c'est quand même de rappeler le message que Didier Deschamps a adressé après cette rencontre. Une piqûre de rappel si elle était nécessaire, donc c'est pas neutre de perdre un match de préparation. D'ailleurs, c'était jamais arrivé dans l'ère Didier Deschamps. La dernière fois c'était en 2010, une défaite avant une grande compétition. Mais vu le contexte, les 5 changements à la pause concernant les joueurs de champ, l'équipe de France qui menait 1-0 à la mi-temps, voilà. On est conscient que, évidemment, c'est pas la préparation idéale, mais quand même, l'idée, c'est déjà de remettre tout le monde à niveau, que ce soit physiquement, même techniquement. Certains n'avaient pas joué depuis plus de 15 jours et de prendre ce match comme une piqûre de rappel. Mais honnêtement, on a assez vite évacué cette défaite. On n'en fait pas tout un plat, on va dire, pour le moment.
La préparation qui s'accélère donc pour l'équipe de France et Didier Deschamps. Quel a été le programme après le retour de Nantes, justement?
Alors, journée assez chargée hier, finalement. Les joueurs sont rentrés dans la nuit déjà de Nantes. Petite nuit, puisque à midi, il y avait la photo officielle officielle qu'on a vue aujourd'hui, qui nous est parvenue. Donc photo officielle pour les joueurs de l'équipe de France. Ils ont eu aussi une réunion, on va dire assez importante en tout cas, qui va compter en visio avec le patron des arbitres de la FIFA, qui leur a présenté alors à tous les joueurs et au staff qui étaient là les différentes règles ou les petites modifications qu'il y aura sur les post-fraîcheurs, sur les touches, sur le gain de temps notamment. Donc voilà, un instant avec le patron des arbitres de la FIFA. Et derrière, il y a eu entraînement. Alors c'était un petit peu pas à la carte, mais c'était en fonction du temps de jeu de la veille. Donc les remplaçants notamment, ou ceux qui ont peu joué, ont commencé par un travail en salle. Il y a eu un peu de renforcement. Derrière, on est allé tout le monde à 17h30 sur la pelouse. Ceux qui avaient le plus joué ont eu une séance quand même plus légère. Ceux qui étaient remplaçants, qui ont eu un peu moins de temps de jeu, ont participé jusqu'au bout avec du travail de finition, de l'intensité et une opposition. Et puis on gère évidemment les états de forme des uns et des autres, avec notamment William Saliba, qu'on savait gêné au dos, qui lui a couru avec le préparateur physique Cyril Moine avant d'aller en soins. Il est accompagné d'ailleurs de Maxence Lacroix et d'Upamecano, donc on voit bien qu'on fait un petit peu attention. Et puis les Parisiens,
ouais.
Eux, ils sont en train de monter en puissance. Il n'y a pas de pépin particulier. Doué et Dembélé ont été préservés. Ils n'ont pas du tout joué face à la Côte d'Ivoire. Ce sont les deux seuls joueurs de champ dans ce cas avec Saliba. Et là, ils étaient sur la pelouse hier. Et a priori, on devrait se rapprocher d'une utilisation optimale lundi, pourquoi pas.
Bah justement, c'est quoi l'équipe qu'on attend pour ce match face à l'Irlande du Nord, à suivre sur RMC en intégralité lundi à 21h10.
Alors l'idée de Didier Deschamps, c'est quand même de se rapprocher encore un peu plus de l'équipe qui débutera le 16 juin contre le Sénégal. Donc on ne sera pas dans l'idée d'une revue d'effectifs. On peut s'attendre en fonction des états de forme donc à quelque chose de type avec Mike Maignan encore dans le but, Koundé à droite ou Upamecano, là le petit point d'interrogation, est-ce que Saliba sera prêt? On saura notamment cet après-midi parce qu'il y a un autre entraînement, mais si ce n'est pas lui, Konaté ou Lacroix en charnière. À gauche, on attend Lucas Digne, le milieu de terrain de Tchouaméni, Rabiot, les deux milieux récupérateurs, et puis Dembélé qui devrait être retour dans le 11 à droite avec Olise dans l'axe, mais on sait que les deux percutent pas mal. Sur le côté gauche, il y a aussi une petite interrogation entre Doué et Barcola, puisque aucun des deux s'est vraiment installé comme titulaire, et en pointe on aura sauf grande surprise Kylian Mbappé.
Et Barcola qui a joué d'ailleurs contre la Côte d'Ivoire, qui est rentré. Pas de Cherki dans le 11.
Non, alors on sait qu'il a marqué des points vu sa prestation contre la Côte d'Ivoire. Alors il y a eu du déchet aussi, mais voilà, il est buteur, il a frappé 3 fois, c'est le joueur qui a touché le plus de ballons, il a un petit peu amené cette étincelle en meneur de jeu pendant qu'Olise était à droite. Mais pour l'instant, de ce qui nous remonte, on est quand même dans la dynamique de garder Cherki comme une doublure au poste de meneur de jeu, que ce soit Olise ou Dembélé, puisque les deux vont sûrement permuter. Mais il a marqué des points, ça c'est factuel. Mais pour le moment, il n'est pas titulaire en puissance, et c'est plutôt un joueur qui aura de l'impact en entrant en fin de match. Donc si on aligne l'équipe type, Cherki devrait plutôt rentrer.
Ça montre toute la force offensive, que ce soit dans le 11 titulaire ou sur le banc pour l'équipe de France. Merci Valentin.
Avec grand plaisir, entraînement 17h30, ça va l'après-midi, et on y sera.
Et tu seras,
bien sûr.
Tu seras toi-même. Tu vas t'entraîner avec eux ou pas?
Bah, je vais voir si je récupère mes crampons, peut-être, pour mettre quelques petits ponts, mais
tu peux postuler une place.
Je m'échauffe, merci. Équipe type.
Merci, Valentin. 14h32 sur RMC. Je vous rappelle que tout à l'heure, on suivra la finale d'âme à Roland-Garros entre Maya Rvalinska et évidemment Mira Andreeva. Donc, cette finale d'âme, alors qu'un hommage est rendu à Caroline Garcia sur le court Philippe Chatriel, qui a mis fin à sa carrière. La saison passé. On va parler d'un autre match, une autre équipe aussi qui va disputer cette Coupe du Monde, c'est la Belgique. La Belgique affronte la Tunisie à Bruxelles dans 27 minutes maintenant, début du match à 15h. On est avec Jean Baumel qui est là. Salut Jibo.
Salut Johan, bonjour à toutes et à tous.
En direct de Bruxelles, évidemment, pour suivre les Diables Rouges, la Belgique, qu'on présentait pendant des années, pendant la décennie 2010, comme des favoris. Maintenant, on parle plutôt d'outsider côté belge, Jibo.
Oui, c'est vrai que quand on regarde un peu l'effectif de Rudy Garcia, faut rappeler quand même que le coach des Diables Rouges, c'est un Français, lui qui a entraîné à Lille avec succès, à Marseille, à Lyon, au Mans, on va pas citer tous les clubs, mais il y en a un paquet, et Saint-Etienne aussi. Il a encore 6 joueurs qui ont été sortis par les Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde 2018. Il y en a même 4 qui sont titulaires, Courtois, De Bruyne, Thomas Meunier, Tillmans, et sur le banc on retrouve Lukaku et Witzel, voilà. Donc 6 rescapés, ce qu'on appelle de la génération dorée, Eden Hazard a pris sa retraite depuis un petit moment. Donc c'est vrai que ce sont des outsiders avec des joueurs intéressants, il y a quand même Jérémy Doku de Manchester City par exemple, d'autres garçons qu'on surveille de près parce qu'ils sont dans notre championnat, c'est N'Goy à Lille en défense centrale, défenseur prometteur. mais c'est vrai qu'ils font pas partie des cadors pour espérer la gagne à la fin du mondial américain. Ils ont un groupe quand même assez tranquille hein, pour passer au moins à la première étape avec l'Égypte tout d'abord, l'Iran et puis la Nouvelle-Zélande. Donc on peut pas imaginer la Belgique ne pas accéder en 16e de finale. Là ça va être une répétition générale avec un stade plein, 50 000 personnes dans le stade du Roi Baudouin ici à Bruxelles, avec une ambiance et un départ prévu lundi pour Seattle hein, ce qui est le lieu où résidera la sélection des Diables Rouges de Rudy Garcia.
Et en plus la Belgique, pour son premier match de préparation, tout s'est bien passé face à la Croatie quand même. Très belle victoire 2-0, notamment avec un très bon Romelu Lukaku.
Oui, alors blessé, il a joué très très peu cette saison. C'était la bonne nouvelle pour Rudy Garcia. Le sujet a été abordé hier en conférence de presse parce que Lukaku, semblant de rien, jeudi soir en rentrant dans les dernières minutes, a marqué son 90e but avec la sélection des Diables Rouges. C'est le recordman absolu des buteurs côté belge. Et puis il espère forcément passer la barre des 100. Il ne sera pas possible pour lui, c'est ce que disait Rudy Garcia hier, de démarrer un match, qui est d'ailleurs le cas aujourd'hui hein. Il va peut-être rentrer en fin de rencontre, mais même pour le début de la Coupe du Monde, notamment face à l'Egypte, hors de question de le faire entrer direct. Il va mieux, mais ils veulent pas prendre le moindre risque pour pas qu'il y ait de rechute au niveau de sa blessure. Donc c'est un élément important. Et Tielemans, lui, toujours aussi actif hein, qui a marqué également en Croatie. Donc oui, Rudy Garcia, franchement une équipe intéressante. Et on verra ce que ça donnera. C'est les moments là, c'est surtout ce moment de voir un peu comment dans une ambiance un petit peu le grand départ, les adieux entre guillemets à la Belgique avant de partir à Seattle. Mais c'est vrai que la Belgique sera l'une des attractions, parce que c'est vrai que c'est vrai qu'après la France il y a des clubs qu'on aime, des nations qu'on aime bien, les nations africaines. Bon, la Belgique c'est un peu le voisin, donc c'est vrai que on a toujours un petit intérêt, bon surtout moi qui est nordiste,
bien sûr,
à côté. Mais il y a toujours eu de la sympathie pour les Diables Rouges, et voilà, même si on est d'abord en faveur des Bleus. Ça, c'est
évidemment. Dès qu'il y a une confrontation France-Belgique, la sympathie s'enlève un petit peu. Forcément. Un mot également avec toi, Gibo, sur les Tunisiens, qui eux ont perdu en match de prépa en Autriche alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Là, il faudrait reprendre confiance pour la Tunisie.
Oui, c'est vrai que Sabri Lamouchi le disait hier également en conférence de presse. Hein, il était avec Dylan Brown, le joueur qui joue en Suisse. C'est vrai que ça va pas être un cadeau, hein. Il y a quand même 4500 supporters tunisiens qui sont là pour soutenir, mais ils savent que c'est une belle mission. C'est un match entre deux mondialistes. Et peut-être pour Sabri Lamouchi, c'est de voir si son équipe est capable, eh bien, de résister, de poser des problèmes à une nation qui est, faut le dire, hein, est supérieure. Alors, ils auront aussi un groupe quand même pas si simple que ça. Ils vont démarrer contre la Suède. Après, ça sera contre le Japon et les Pays-Bas.
Donc,
franchement, si la Tunisie sort de ce groupe, déjà, ça serait un énorme succès. Ça sera compliqué. Eux qui seront au tout début au Mexique pour l'équipe de Sabri Lamouchi. Donc, il y aura quelques réglages à faire. Il y a des blessés. Donc, on va surveiller notamment certains joueurs. Je pense notamment là le Niçois Talbi, les joueurs que l'on connaît bien, les joueurs offensifs notamment hein, avec Garbi Mahmoud et Mastouri. Donc, faudra vraiment regarder un peu l'aspect offensif. C'est ça qui fait un petit peu défaut à la Tunisie depuis un petit moment.
Ouais, début du match dans 22 minutes. Donc, Belgique-Tunisie à Bruxelles avec toi, Gibo, au commentaire. On suivra cette rencontre entre les deux coachs français. D'ailleurs, tu en parlais, Rudy Garcia et donc Sabri Lamouchi. Merci, Gibo.
À tout à l'heure.
14h38 sur RMC. On revient dans un instant. On vous présentera le Final Four en handball, la Ligue des Champions féminine avec Metz qui affronte Bucarest. Également une présentation des qualifications du Grand Prix de Monaco. Qualification presque plus importante d'ailleurs que le Grand Prix principal, parce que le Poleman en général s'impose lors du Grand Prix. On sera avec Nicolas Paolorsi et Jean-Luc Roy. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Johan Bridav.
14h41 sur RMC. Merci d'être avec nous dans l'Intégral Sport jusqu'à 16h, dans un peu plus de 30 minutes maintenant. Début de la finale dames à Roland-Garros entre Maja Rwalińska, la Polonaise, 114e mondiale. Énorme surprise de ce tournoi qui sera au minimum 21e lundi prochain au classement WTA face à Mira Andreeva, la 8e joueuse mondiale. D'ailleurs, Petite info, on en reparlera tout à l'heure, mais le toit s'est ouvert sur le court Philippe Chatrier. Il était fermé tout à l'heure, donc les conditions de jeu seront normales. Ça fera plaisir à Eric Salio et Sarah Pitkovski, hein, qu'on va retrouver dans un instant pour reparler de cette finale féminine. Mais on va vous présenter un autre événement ce week-end à suivre sur RMC, événement très important, le Grand Prix de Monaco qui aura lieu demain, mais aujourd'hui c'est la journée des qualifs, les qualifs du Grand Prix de Monaco. On est avec Nicolas, Paul Orsi et Jean-Luc Roy qui sont avec nous dans l'Intégral Sport. Salut messieurs.
Salut les amis. Salut
et
à tous.
Salut Yohan, salut Nico et bonjour à tous.
Nicolas, on va commencer avec toi parce que bon, toi t'es, oui, t'es le chanceux, t'es sur la principauté en train de te dorer la pilule et évidemment, mais j'ai ouï dire que tu devais trouver un yacht. Est-ce que t'as trouvé un yacht? Est-ce que t'as réussi à aller sur un yacht? Voilà, ça c'est un coup
dur. J'ai pas réussi à trouver une place sur un yacht. Voilà, c'est un petit peu pour l'instant l'échec de ce week-end. Mais non, mais les conditions météo sont bonnes à Monaco. Pas si chaud que ça hein, ce week-end. C'est d'habitude il fait vraiment chaud. Là, on est sur une petite vingtaine de degrés, donc c'est complètement supportable pour les pilotes. On n'annonce pas d'intempéries là jusqu'à demain soir et la fin de la course, mais comme d'habitude Monaco c'est une ambiance à part. Là, tu vois, pour te décrire un petit peu la situation, j'ai pris du recul, là je suis sorti du paddock parce qu'il y a une course derrière et je suis au niveau du port. Il y a toute la valse des bateaux que Jean-Luc connaît si bien avec des énormes yachts qui arrivent. Il y a quelques guests,
évidemment
il y a le sien en effet qui a marré. J'ai croisé quelques guests avec Kim Kardashian là qui est arrivé tout à l'heure, que j'ai même pas reconnu, oui, figurez-vous, oui, pour vous dire un petit peu mon niveau avec la jet set.
Tu la salueras de ma part hein, dès que tu la revois.
Bien évidemment, oui, je sais que t'es c'est une intime.
c'est pas possible. Mais Nico, faut reconnaître Kim Kardashian quand même. T'en as reconnu quelques-uns, rassure-moi.
Mais je vais passer vraiment pour le journaliste sportif de bas étage. J'ai reconnu Paul Pogba. Et voilà. Après, j'en ai pas croisé.
Et voilà,
j'en ai pas croisé 10 000 non plus. Mais Kim Kardashian, je suis passé à côté vraiment et je ne l'ai pas reconnu. Quoi.
T'as reconnu les pilotes quand même.
Oui, les pilotes, ouais, ça va. Bon, les pilotes, je les ai. En plus, il y a les combinaisons, ça va pour les identifier, ça.
Justement, bon, Nico, t'étais au plus près du circuit. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé en essai libre, que ce soit hier ou aujourd'hui. On a vu les Ferrari quand même en grande forme.
Oui, même si la Mercedes d'Antonelli et Jean-Luc va revenir dessus a très très bien performé. Antonelli est vraiment au niveau. C'est un des enseignements de ces trois premières séances d'essai libre. Mais en effet, Ferrari est présente. Ferrari avec Leclerc et Hamilton est au rendez-vous. Et franchement, l'ambiance qu'il y a autour de cette Scuderia ici, tout le monde n'a des yeux que pour la Scuderia Ferrari à Monaco. Tous les balcons sont stickés, placardés avec des banderoles Charles Leclerc. C'est le chouchou, c'est l'enfant du pays, donc il y a un engouement de dingue autour de la Scuderia et malgré le fait que Fred Vasseur ne soit pas dans le paddock aujourd'hui, il a eu des examens médicaux. Alors on l'a croisé hier hein, il allait parfaitement bien, je l'ai encore croisé en fin de journée après toutes les obligations médias, il avait l'air d'aller bien. Visiblement il a eu un petit souci de santé dans la soirée d'hier, il a dû aller passer des examens et il est gardé en observation. J'ai pas la sensation que ça ait vraiment perturbé le fonctionnement de la Scuderia Ferrari, donc voilà, méfiance avec Mercedes. Mais c'est vrai que Ferrari fait encore office de grand favori.
Ouais, Jean-Luc, Ferrari favori. Il y a Charles Leclerc qui est chez lui, qui est spécialiste des pole positions, des qualifications à ce Grand Prix de Monaco, qui est tout particulier parce qu'on a l'impression que ce Grand Prix se joue dès aujourd'hui.
Et oui, tu as raison de le souligner parce qu'il a fallu quand même trois pôles de Charles Leclerc. La première, c'était en 2021 à bord de la Ferrari. L'année suivante, il avait récidivé. Mais il n'était pas parvenu à l'emporter puisque c'était Max Verstappen qui avait gagné en 2021 et c'était, il faut le rappeler quand même, Sergio Lopez qui avait gagné donc en 2022. Alors Charles s'était imposé, on se rappelle de quelle brillante manière en 2024. Là, il avait fait le carton plein, il avait sauté dans le port, c'était la joie absolue puisque jamais un Monégasque ne s'était imposé dans le cadre du Grand Prix de Formule 1. Depuis 1950, cette épreuve a été créée en 1929 par Anthony Noguès, dont le dernier virage porte le nom. Et c'est vrai que Charles, alors on joue un peu à domicile aussi pour les Italiens, parce que vous le savez évidemment, bien la sûr. Principauté, elle est à un jet de pierre de la frontière, et les collines traditionnellement sont rouges, hein. Rosso, Toro Rosso.
Bah forcément, c'est vrai que là c'est un mix entre la France et l'Italie, mais donc Ferrari qui est largement favori, qui se tire la bourre, hein, Leclerc et Hamilton quand même, on va pas oublier Hamilton qui performe aussi avec sa voiture et qui est capable aussi d'aller chercher cette pole position. Mais Nicolas le disait, Jean-Luc, Mercedes n'est pas loin.
Écoute, un déclic s'est produit pour Lewis Hamilton, puisque tu l'évoquais, depuis le dernier Grand Prix. Enfin, il a une voiture qui lui correspond, dans laquelle il se sent bien. Il travaille bien avec ses ingénieurs. Il a d'ailleurs remercié de manière appuyée la Scuderia. Il est monté sur son premier podium en Grand Prix, je dis bien, puisqu'il avait remporté, on s'en souvient, la Sprint Race en Chine. Mais c'était un épiphénomène, on peut dire, hein, compte tenu de la saison relativement catastrophique qu'avait vécu Lewis en rouge l'an dernier. Eh bien, cette année, manifestement, il y a un changement important. Tu sais, vous savez qu'il y a eu un changement radical, évidemment, concernant la réglementation technique. Et puis surtout, bah, il est parvenu à la mettre à sa main. Et là, il confirme, hein, ça a été lui le plus rapide, Nicole rappelait, dans la deuxième séance d'essais libres. Là, il est vraiment tout proche. Il n'a jamais été aussi proche de Charles Leclerc. Alors, il faut attendre les qualifs. Les vrais qualifs, ça va être maintenant. Parce que là, Monaco, c'est un circuit où on ne peut pas tricher. Hein. Il faut être à 150%. On se souvient tous, évidemment, même si vous ne l'avez pas vécu, vous n'avez pas eu la chance de les vivre en direct live à l'époque, vous n'étiez pas né ou trop jeune. Les pôles d'Ayrton Senna étaient absolument incroyables. Et là, bon, il ne faut absolument pas minimiser le travail des pilotes. Puis moi, ce que j'aime sur ce tracé, évidemment, ce tracé sinueux, ce tracé délicat, ce tracé unique de 3 km 337, c'est que eh ben, la part du pilote est énorme dans le résultat.
Oui, c'est ça, c'est le talent du pilote qui fait la différence. Justement, parle-nous un petit peu du reste des écuries, notamment les Red Bull avec Verstappen et Hadjar, qui sont en embuscade, qui sont capables aussi, pourquoi pas, d'aller titiller les grands favoris. Eux aussi, quand même, ont montré de belles choses lors des essais.
Absolument. Alors, Isaac le pauvre, évidemment, a payé l'addition. Hein. À Monaco, c'est son deuxième Grand Prix. Il a fini dans le rail, dans le deuxième S de la piscine. Heureusement, pas trop de dégâts techniques. On a pu remettre sa monoplace en état. Il a pu rouler dans la deuxième séance d'essais libres et réaliser de bonnes performances. Donc, et surtout dans la troisième, hein, où il s'est rapproché de Verstappen. Alors, on ne peut jamais écarter, évidemment, Max Verstappen, pour toutes les raisons que l'on connaît. Il s'est évidemment imposé ici. Hein, tu le sais, il s'est imposé. La dernière fois, c'était en 2023. Voilà, je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Et il s'était imposé précédemment en 2021. Verstappen, puisque je parlais de pilotage et que pour moi, c'est le meilleur de la grille, hein, c'est parfaitement clair. Donc, je pense qu'il va nous sortir quelque chose d'insensé en qualif. Alors, la barre, évidemment, c'est de passer, tu sais, de rester dans le top 16, évidemment, à l'issue de la Q1. C'est pas évident, parce qu'il y aura 22 monoplaces sur la grille, c'est-à-dire 22 monoplaces sur un tracé court, sinueux, délicat, où on peut être facilement gêné. Il faut trouver un tour clair, mais quand on rappelle qu'à une certaine époque, bah, moi, j'en ai connu 26, hein, sur le même tracé. Donc, on arrivait bien à trouver un créneau.
Ouais, à chaque fois, forcément, le créneau va se créer quand même pour les pilotes. Début des qualifications à 16h, donc dans 1h10 exactement, début de ses qualifications au Grand Prix de Monaco. Et Jean-Luc, on le disait, la pole position quand même amène presque à chaque fois, en tout cas depuis 2004, c'est arrivé 15 fois sur 21 pole positions que le poleman s'impose. C'est quand même dingue.
Ben voilà, j'allais te ressortir la stat. Alors il y a deux manières de la lire. Tu as raison, 15 pôles, je suis même remonté, tu vois, à 2003 pour être précis. Donc sur 22 éditions, à 15 reprises, le poleman s'est imposé. Mais ça veut donc dire que, tu fais le calcul comme moi, hein, que les autres fois, c'est-à-dire un tiers des cas, le poleman ne s'est pas imposé. Alors effectivement, on peut remonter un petit peu dans l'histoire et se rendre compte que lorsque Sergio Pérez l'a emporté, je l'évoquais tout à l'heure, en 2022, eh bien il est parti troisième. Donc il était en deuxième ligne. Lorsque Verstappen s'est imposé en 2021, il est parti deuxième. Donc il était en première ligne. Et puis si on remonte, bon, je vais pas vous faire toute la liste, mais Vettel également était parti deuxième en 2017. Rosberg était parti deuxième en 2015 et Hamilton lui-même, qui s'était imposé en 2016, était parti troisième. Donc tu vois, il y a quand même moyen de composer.
Ouais, il y a moyen de qu'il se passe quelque chose quand même. C'est tout ce qu'on souhaite pour le Grand Prix demain et pour ses qualifications. Qualification qu'on suivra dans un peu plus d'une heure maintenant avec toi, Jean-Luc, au commentaire. Je te remercie, Jean-Luc. Je te remercie également, c'est Nicolas. Je te laisse aller voir les stars.
Ciao,
quand
les
même, essayer de les reconnaître.
Oui. Parce que... Oh, bah, il y a bien une superstar. Salut, que je vais snober encore. Oui, je vous tiens au courant, hein, toi, si star, jamais je pense à côté d'une superstar et que je m'en rends pas compte.
Exactement. Merci, Nicolas. Paul Orsi. Tout à l'heure, Jean-Luc. On va vous présenter également, après la Formule 1, le handball. Le Final Four de la Ligue des Champions féminines, Metz face à Bucarest, avec Kevin Kevin Morand en direct de Budapest où se déroule ce Final Four. Salut Kevin.
Salut Johan, salut à tous.
Et donc c'est la première demi-finale de la journée à suivre à 15h maintenant, dans 8 minutes, entre Metz et Bucarest. En attendant celle de Brest, hein, Brest qui va défier Győr tout à l'heure à 18h. Metz qui va essayer de vaincre, pour la première fois, de vaincre cette malédiction des demi-finales de Ligue des Champions, en tentant d'accéder enfin, j'ai envie de dire, et j'accentue sur le enfin, à la finale, Kevin.
Oui, parce qu'il y a une occasion unique là d'avoir une finale 100% française. Tu l'as dit, Brest, ce sera tout à l'heure. La France, on le rappelle, n'a jamais remporté cette Ligue des Champions en ce qui concerne les clubs féminins. C'est la première fois qu'il y a deux clubs en Final Four. C'est déjà arrivé chez les hommes. Et donc, c'est deux locomotives du hand féminin français avec ce Metz Handball, sa ribambelle d'internationales françaises. Donc, Chloé Valentini, Sarah Bouktit, Léna Granvaux, Grace Zahadi, qui est revenue pour quelques mois à Metz comme joker. Et les Messines, tu l'as dit, sont habituées à venir passer le week-end à Budapest, ici au mois de juin. C'est la cinquième fois depuis 2019 que le club lorrain est en demi-finale, mais les Dragons n'ont jamais passé le cut, et c'est peut-être l'année, parce que le tirage au sort de ce Final Four leur a déjà été évité d'affronter dès ces demi-finales Brest, mais aussi Győr, les Hongroises, qui jouent quasi à domicile dans ce MVM Dome de Budapest, qui sont surtout double tenantes du titre et ultra favorites de ce Final Four. Et pour Metz, donc, l'adversaire, ce sera les Roumaines du CSM Bucarest, qui a gagné une fois quand même cette Ligue des Champions il y a 10 ans, mais qui revient en Final Four pour la première fois depuis 2018. C'est pas un épouvantail, mais l'équipe s'est sacrément redressée depuis l'arrivée sur le banc d'une coach monténégrine, Bojana Popovic, au cœur d'hiver. Et par exemple, Bucarest a sorti Eisberg en quart, les Danoises, grandes habituées de ce Final Four. Donc il faudra se méfier de leur puissance. Et puis il y a quand même 650 supporters messins qui ont fait le déplacement, tout en jaune, là, dans un virage de ce dôme de Budapest. Ils vont essayer de se faire entendre, parce que clairement, les Français, même si on ajoute les Brestois, les supporters brestois qui ont fait le déplacement, ils sont en minorité cet après-midi. Il y a beaucoup de verts, de Győr et aussi beaucoup de Roumains.
Bon, pour ce Metz-Bucarest, Metz est largement favori d'ailleurs de cette rencontre. Puis les Messines ont une revanche à prendre, parce qu'elles ont laissé échapper le titre de champion de France au profit des Brestoises, justement. Et en plus, elles maîtrisent quand même cet adversaire de Bucarest qu'elles ont gagné 5 fois sur les 5 dernières confrontations.
C'est ça, elles sont invaincues sur les 5 dernières saisons. Et Brest et Metz, tout simplement, le titre de championne de France s'est joué à la différence de buts particulière sur les buts marqués à l'extérieur. Elles ont le même nombre de points à la fin de cette saison. Le week-end dernier, Brest est devenue championne de France après 5 années de domination messine, simplement donc parce qu'il y avait un but marqué de plus à l'extérieur pour les Brestoises. Et elles avaient 16 points d'avance sur les autres clubs, sur le 3e en Ligue féminine de handball. Voilà, il y a une grosse domination de ces deux clubs, Brest et Metz. Mais Brest est allé une fois en finale de cette Ligue des Champions 2021, contrairement à Metz, donc qui court toujours après, et c'est peut-être pour cet après-midi, on l'espère.
Voilà, une petite rivalité aussi à distance entre les Messines et les Brestoises. Merci Kevin, on te retrouve donc dans 5 minutes pour le début de cette première demi-finale du Final Four en handball de la Ligue des Champions féminines entre Metz et Bucarest. À tout à l'heure, Kevin. 14h55 sur RMC, merci d'être avec nous dans l'Intégral Sport jusqu'à 16h. On va faire une petite pause et on se retrouve dans un instant pour revenir sur cette finale à Roland-Garros qu'on va suivre attentivement entre Maja Rwalińska, la polonaise, et Mira Andreeva. Donc début de cette rencontre vers 15h30, le temps de la cérémonie du show avant la rencontre. À tout de suite sur RMC, restez bien avec nous.
RMC Intégral Sport,
Johan Bredov.
h 03 sur RMC, l'Intégral Sport jusqu'à 16h. Dans quelques instants maintenant, début de la finale dames à Roland-Garros, qu'on suivra en intégralité sur RMC, entre Maja Rwalińska, la polonaise, 114e à la WTA, et Mira Andreeva, 8e joueuse mondiale. On va retrouver dans un instant Porte d'Auteuil, Eric Salio et Sarah Pitkowski. Mais d'abord, on va faire un point sur nos directs avec la demi-finale de handball entre Metz et Bucarest, et le Final Four en Ligue des Champions, la première demi-finale. Et c'est parti, Kevin Morand, entre les deux équipes.
C'est parti depuis 2 minutes 20 ici au MVM Dome de Budapest, et pour l'instant ce sont les Roumaines du CSM Bucarest qui mènent 1-0, les Messines qui ont buté sur le poteau et sur la gardienne adverse. Donc 1-0 pour Budapest face à Metz dans cette demi-finale de Ligue des Champions après 2 minutes 32.
Voilà, début du match, donc Metz qui est favori pour essayer d'aller chercher une première finale dans son histoire en Ligue des Champions, en attendant Brest donc à 18h, qui sera opposé au mastodonte, hein, de la compétition, Győr. Ça sera peut-être un petit peu plus plus compliqué pour les Bretonnes, quoique les Bretonnes sont tout de même championnes de France. C'est parti également à Bruxelles entre la Belgique et la Tunisie, match de préparation en vue de la Coupe du Monde 2026 avec Jean Baumel.
Avec une grosse ambiance, hein. Je vous le disais tout à l'heure, 50 000 personnes, 0-0, 2 minutes de jeu, mais deux situations déjà pour les Diables Rouges, 20 secondes de jeu, tir extérieur du pied de la part de Thomas Meunier, extérieur du droit, qui était contré corner, corner qui a donné situation dangereuse puisque Trossard, s'ouvre le chemin du but, il frappe le gunner, hein, lui qui a perdu la finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Il a obligé, Mouib Chamakh, le gardien de cette équipe tunisienne, à détourner en corner. Donc, début de match à l'avantage des Diables Rouges, mais pour l'instant c'est un ballon qui circule dans la défense tunisienne. On rappelle, les deux équipes ont toutes les deux participé à la Coupe du Monde, et départ dès lundi pour les Diables de Rudy Garcia. 0-0, bientôt 3 minutes de jeu.
15h05 sur RMC, dans 20 minutes maintenant le début de la finale dames entre Maja Rwalińska et Mira Andreeva à Roland Garros. Justement, on va rejoindre Eric Salio et Sarah Pitkowski en direct du cours Philippe Châtrier. Rebonjour à vous deux. Et là, vous assistez à un beau ballet, hein. Un beau ballet qui est sur le cours Philippe Châtrier. C'est pas mal, ça, Eric.
Absolument. C'était ce que désirait Amélie Mauresmo lorsqu'elle avait effectué la présentation officielle du tournoi. C'est un ballet dirigé par Benjamin, enfin inventé, conçu par Benjamin Millepied, qu'on ne présente plus. Donc, effectivement, c'est de la haute qualité, c'est de la haute couture presque, à Sarah.
Oui, et puis il faut raconter une histoire entre l'art qu'est la danse avec le tennis, et là aujourd'hui cette démonstration, eh bien c'est aussi pour présenter la Coupe Suzanne Lenglen, qui a été brandi par les danseurs sur le central. Et puis aussi, il y a une donnée, c'est quand on imagine des shows sur le central, on est sur terre battue. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a un match qui va se jouer. Tu vois, ce n'est pas un spectacle que tu pourrais imaginer sur une surface rapide comme le dur. Donc
on ne peut pas des motos, quoi, en gros.
Non, on évite. Et même les chaussures, ils sont tous en chaussettes. Bon, ouais, je pense qu'elles vont direct à la poubelle. Hein. Mais oui, il ne faut pas abîmer aussi le cours. Donc tout ça est à prendre en considération. Mais c'est vrai que depuis qu'Amélie Mauresmo est devenue directrice du tournoi, bien elle essaie chaque année d'y apporter une touche de culture et d'art. Et c'est vrai que ça s'inscrit parfaitement dans l'imaginaire de Roland Garros. Est-ce que Roland Garros comment Roland Garros est implanté dans Paris? On sait que c'est le pays de la mode, c'est le pays de la culture, donc je trouve que
de la gastronomie,
avec le jardin des chefs. En tout cas, les passerelles, elles se construisent petit à petit d'année en année, et je trouve que c'est intéressant, voilà, de positionner le sport et ce stade de Roland Garros qui aurait pu déménager, hein, il y a quelques années, où il y a eu une grande réflexion de la Fédération française de tennis et qui a pris le parti de rester, eh bien, au cœur de Paris, même si on peut pas l'agrandir, eh bien, on essaie de lui apporter une touche très frenchy, très parisienne, et en l'occurrence, ce ballet de Benjamin Millepied, ben, s'inscrit tout à fait là-dedans.
Dans moins de 10 minutes, l'entrée des joueuses, Mira Andreeva et Maja Rwalińska. Revenons un petit peu sur cette finale, sur cette affiche donc qui nous attend entre la Polonaise et la Russe. On va commencer par la Polonaise. Exceptionnellement, on va pas faire la mieux classée des deux, mais parce que cette histoire, elle est dingue. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, cette histoire de Rwalińska qui n'était pas prête, pas préparée du tout à aller aussi loin dans le tableau. Il y a eu des histoires d'hôtel où elle réclamait une chambre gratuite. Elle avait pas prévu de rester aussi longtemps. Mais c'est vrai que c'est une joueuse hyper attachante qui a une histoire particulière, Eric.
Oui, parce que c'est une fille qui a connu des problèmes d'ordre mental, puisque quand elle est sortie des juniors, elle a eu pas mal de blessures et elle se demandait si ça valait la peine de continuer. On a même retrouvé des tweets de son manager qui cherchait des autres Australiens pour les accueillir gratuitement alors qu'elle allait faire les qualifs de l'Open d'Australie. Donc elle était un peu sans le sou. Et c'est vrai que là, il y a une petite histoire rigolote. Mais bon, elle a un peu enjolivé parce qu'après avoir monté dans le tableau, l'hôtel est payé par l'organisation. Alors peut-être qu'elle évoquait les chambres d'hôtel de son staff et notamment de son coach qu'on a rencontré jeudi soir, qui a d'ailleurs... Il a une tête de prof, tu vois. C'est de prof d'SVT ou je sais pas quoi, ou de maths. Mais tu sens que...
Tu vas pas te faire que des amis avec les profs de maths et les profs d'SVT, hein?
Pas du tout, c'est absolument pas péjoratif, mais tu sens qu'il y a beaucoup de réflexion derrière. Et quand je lui avais demandé si elle avait toujours joué comme ça, il m'a regardé, bah oui. Et puis surtout, elle rend les autres très inconfortables parce que Elle frappe jamais deux fois la même balle. Elle est capable de tout faire. Donc, elle est gauchère, donc elle met beaucoup de lift avec sa patte gauche. Elle est capable de slicer côté revers. Elle est capable d'accélérer long ligne côté revers. Elle est capable d'amortir. Et puis, elle a un sens du jeu inouï. Parce que combien de fois elle a fait l'enchaînement lob, amorti lob, et la fille d'en face devient dingue.
Ah bah oui, parce que quand tu fais des courses vers l'avant et vers l'arrière, oui, c'est pas ce que tu fais tous les jours sur le terrain. En tout cas, c'est pas ce que tu fais systématiquement en match. Et donc, c'est vrai que ce tennis qui semble s'être réglé, parce qu'elle a pas changé de manière de jouer. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi elle gêne plus les joueuses cette année à Roland-Garros, alors que ce tennis existe et qu'elle le joue depuis toujours. Mais peut-être que tout s'est aligné. Le tennis, c'est aussi un sport de confiance, et que véritablement, au fil des tours, elle a pris la mesure qu'elle pouvait peut-être jouer ce tennis tout le temps et que c'était un vrai atout. Et c'est pour ça qu'on est tous très admiratifs devant ce tennis qui est fait de plein d'inventivité, de créativité. On aimerait tous jouer comme ça. On devrait tous apprendre à jouer comme ça. Mais c'est vrai que naturellement, quand on frappe des balles à l'entraînement, on répète des dizaines, des centaines, des milliers de fois souvent la même balle, et on oublie que le tennis est un jeu, et elle le joue comme un jeu. C'est-à-dire qu'elle découpe dans son esprit le terrain est découpé en quatre. Donc il y a les deux carrés de service et la zone de fond de court. C'est comme si elle prolongeait la ligne de carrés de service, et donc en fait elle a quatre zones dans son schéma tactique, et ces quatre zones, elle les utilise systématiquement, en fait. Voilà, elle les utilise et elle joue pas deux fois dans la même zone. Donc en fait, elle oblige l'adversaire à toujours être très très attentiste. En tout cas, d'être très dans l'attente de savoir ce qui va se passer, et d'être dans l'incertitude. Et c'est vrai que le tennis féminin, en général, c'est plus facile de reproduire des diagonales où on frappe de manière stéréotypée, toujours la balle à hauteur de hanche, et on frappe de plus en plus fort. Et comme les joueuses sont plus athlétiques, avec la préparation sur les dernières années, le matériel qui évolue, en fait, au détriment du jeu, on frappe plutôt de manière stéréotypée. C'est à celle qui passera en puissance. Elle a pris totalement le contre-pied. Et ce contre-pied fonctionne depuis 9 matchs remarquablement bien.
Et Sarah, on va surveiller aussi sa tenue, parce que
oui, en début c'est tournoi, exactement ce que j'allais dire. Je vais voir avec quelle tenue elle va rentrer.
On va pas citer les marques, mais elle jouait avec une tenue sombre, et depuis les quarts de finale, elle joue avec une tenue un peu comme Maya l'abeille, en jaune, quoi. On se demande si la célèbre marque au crocodile lui a pas envoyé une petite tenue, parce que je la vois mal acheter quand même sa tenue avant un match. Mais en tout cas, son manager indique qu'il y aura pas de problème d'équipementier pour les mois à venir. Oui. Sa vie va changer. Elle est 114.
1,4 million minimum.
Un million d'argent. Moi, je parle des classements. Bon.
sa vie va changer.
Priorité, Sarah, visiblement.
Mais non, mais sa vie va changer. C'est quand tu mets 1,4 million sur ton compte, déjà tu vas voyager dans de meilleures conditions. Tu vas peut-être voyager avec un préparateur physique. Tu vas pouvoir investir. C'est pas juste une histoire de mettre ça sur ton compte. C'est qu'elle va pouvoir investir dans son tennis pour continuer à progresser.
Elle sera au minimum 21e mondiale lundi. Mais ce qui est sidérant, c'est qu'elle n'est même pas sûre de faire Wimbledon, parce que Wimbledon se base sur un classement antérieur à son Garros. Oui. Et donc, au moment où on se parle, elle est inscrite en qualif. Donc elle sera évidemment tête de série numéro 1 en qualif. Donc on va surveiller la distribution des wildcards. Mais on sait que les Anglais aiment bien donner des invites aux Anglaises.
C'est ça.
Et puis il y a peut-être
Serena, exactement, qui va venir. C'est-à-dire qu'il va y avoir des vraies discussions du côté de Wimbledon pour donner les wildcards.
L'an passé, Louise Boisson n'avait pas eu d'invitation.
Mmh. Hein.
Elle était qu'en demi, vous allez me dire. Voilà. Là, elle est. Sur son CV, c'est marqué finaliste de Grand Chelem.
Et si elle gagne, est-ce qu'ils vont devoir plier les Anglais?
Mais Louise Boisson se rattrape du coup cette année, parce qu'elle est qualifiée à Wimbledon, alors qu'elle va descendre au classement WTA au-delà de la 150e place. Elle a été éliminée au premier tour, donc c'est vrai que en fait le cadeau est juste différé d'un an pour Maja Radwańska. Ça sera l'année prochaine.
Radwańska en qualif de Wimbledon à Roehampton.
Il va y avoir du monde.
J'arrive pas à y croire. Alors qu'elle sera 21 mondiale ou 14, j'arrive pas à y croire. Les Anglais sont tout sauf bêtes. Quand même.
Bon, on parlait de son jeu, Radwańska. Tout à l'heure, on l'a évoqué aussi le fait que ça pouvait poser problème à Mira Andreeva, parce que Mira Andreeva, elle joue aussi finalement sa première finale en Grand Chelem de sa toute jeune carrière à 19 ans. Donc, paradoxalement, c'est elle qui a le plus d'expérience. Évidemment, c'est elle qui a gagné le plus de titres, mais il faudra non seulement qu'elle gère ce statut de grande favorite, mais aussi, comme on sait qu'elle est capable de saut d'humeur dont tu parlais, Eric, tout à l'heure, il faudrait qu'elle gère aussi le jeu de son adversaire qui a tout quand même pour lui casser la tête.
Complètement. Et elle a beau avoir été préparée dans ce matin ou hier par Conchita Martinez, qui est sa coach, rien ne vaut le terrain, Sarah. C'est-à-dire qu'elle va vraiment découvrir la qualité, entre guillemets, de balle de son adversaire lors des premiers échanges. Et je suis sûr que l'autre va lui réserver des petits cadeaux empoisonnés. Quoi. Je ne serais pas étonné qu'il y ait une petite amortie par-ci, par-là dans le premier jeu pour lui montrer qu'elle est capable de la perturber. Non, ça va être les premières minutes, Sarah, vont être très intéressantes.
Les premières minutes sur le jeu et même sur l'attitude des joueuses. Alors, c'est vrai que Mira Andreeva est jeune. Hein. Elle a 19 ans, qu'elle a montré sur ces deux dernières années où elle est arrivée sur le circuit qu'elle pouvait être vite agacée, émotive. Mais elle a quand même fait un match face à Kostchouk qui était vraiment... Bien mené émotionnellement parce que ce match-là, il y avait beaucoup de vent. Le toit était fermé ou il s'est fermé pendant le... Je ne sais plus, j'ai un doute. Non, il y avait beaucoup de vent. On a joué à l'extérieur, enfin, toit ouvert. Et on a vu Kostchouk qui, elle, est sortie complètement de son match. Elle n'arrivait pas à trouver la bonne carburation. Et Andreeva, eh bien, elle a montré plus de confiance et de sérénité. Donc, je pense qu'elle est aussi en train de gagner en maturité. Et elle en aura besoin parce que malgré son jeune âge, tu le disais, c'est elle qui est favorite.
Ouais, exactement. Elle grandit, en fait, Mira Andreeva. C'est
les coulisses ou... Où justement Mira Andreeva est dans les couloirs du central et elle a eu un petit hug justement avec Conchita Martinez. Donc maintenant Conchita Martinez n'est plus avec elle. Elle va monter en tribune dans le box et donc Mira.
Oui, on la voit arriver dans le box qui est à comment on dit à gauche.
Et Maya Wroniewska va jouer avec sa tenue jaune et noire comme l'abeille. Elle va piquer partout.
Exactement, avec le crocodile qui est là. Et évidemment pour Wroniewska. Qui a le plus de pression entre les deux joueuses? Mira Andreeva, 8e mondiale, 19 ans.
Je ne sais pas, Mira, franchement.
Mira, elle est programmée pour gagner des chelems, on le sait. Depuis qu'elle a intégré le centre d'entraînement de Cannes avec Jean-René Lisnard.
On les voit, elles se tournent le dos. Elles ne veulent pas, les regards ne vont pas se croiser jusqu'au moment de rentrer sur le court.
Son téléphone dans la main droite alors que Maya, elle, est concentrée. C'est elle qui va rentrer en premier sur le court puisque c'est la moins bien classée. Et vous allez assister à l'entrée sur le court et l'ovation, bien entendu, parce que le stade est déjà plein, heureusement. Parce
et
que...
beaucoup de supporters polonais, voilà. On en a, entendu.
Épaules, son joli sac rose, très lourd. Et donc, elle va grimper les escaliers. Maya, qu'est-ce que ça doit...
Je sais pas, je peux pas te dire, mais j'ai le cœur qui bat pour elle. Elle a les deux cuisses bandées, hein. Évidemment, les adducteurs ont dû prendre depuis 9 matchs et les nombreuses courses. Et qu'elle a dû faire, les kilomètres qu'elle a dû faire pour ces 9 matchs.
Connaissait. Elle a commencé son tournoi le 18 mai, hein, c'est ce que je disais. C'est sur la course Suzanne Lenglen contre Alice Ramé en premier tour des qualifs. Et on l'écoute, l'entrée sur le court.
Quatorzième mondial, quand même Maya Wroniewska qui va disputer évidemment sa première finale en Grand Chelem. Mais bon, c'est vrai que les supporters polonais, ils s'attendaient certainement à Iga Świątek en finale. Au moins, ils ont rien perdu. Ils ont réussi à avoir Wroniewska quand même. Mais quelle performance! Tu le disais, touchée aux adducteurs, elle a joué énormément de rencontres depuis ses qualifications alors qu'on assiste à l'entrée sur le court. Cette fois de la 8e mondiale, Mira Andreeva.
Qui a son iPhone branché, donc je pense qu'elle écoute de la musique, Sarah, pour ce... Voilà, ils ont tous leur routine. Hein.
Oui, mais avant, ils mettaient des gros casques, maintenant, ils mettent les AirPods, et c'est quand même beaucoup plus élégant, parce que ça avait agacé beaucoup de monde de voir les joueurs avec les gros casques. Évidemment, il y avait du marketing derrière, mais ça coupait, ça faisait vraiment style, on rentre sur le coup et on s'en fiche des spectateurs. Là, c'est différent, c'est plus discret. Et effectivement, elle est dans sa bulle avec sa petite musique... Et elle va aller s'installer à gauche de la chaise d'arbitre. À droite, ce sera pour Wroniewska.
Un peu d'applaudissements pour Andreeva.
Ah mais oui, bien sûr.
Mais c'est dingue, alors qu'elle a fait une campagne de communication qui était exceptionnelle. Oui. Avec le maillot des Bleus, elle parle français. Et finalement, elle a moins d'applaudissements.
Bah, on aime les contes de fées, nous, en France. On aime les
oui, et puis je pense que malheureusement, c'est cette nationalité qui aujourd'hui refroidit, même si ce n'est pas collé à son nom. Ça reste... voilà. Ça si reste gagne, une distance.
Si elle gagne, il n'y aura pas d'hymne, par exemple.
Non, il n'y aura pas d'hymne, effectivement, si elle gagne.
C'est la conséquence, l'une des conséquences de la situation des Russes dans le paysage tennistique. Sur le tableau d'affichage, derrière Arlinska, il y a POL, mais derrière Andreeva, il n'y a rien, quoi. Voilà, c'est.
Ouais.
Bon, ils sont habitués maintenant, les joueurs russes, ils ne revendiquent rien.
Bon. Début de cette rencontre, donc, dans quelques minutes maintenant, après l'échauffement des deux joueuses, Mira Andreeva face à Maya Rvalinska, avec vous, Eric Salio et Sarah Pitkowski au commentaire. On vous retrouve dans un instant, mais à 15h19, on bascule sur le quintet à Vincennes avec Dimitri Blanc-L'œil. Salut Dimitri.
Salut Johan, bonjour à tous. On est dans le dernier tournant de ce quintet avec le favori qui a l'avantage. C'est Mentor de Play qui semble aller plutôt bien. Mac de Blary est en deuxième position. Magic, pour l'instant, Magic Man n'a pas le passage en dedans. Mac de Blary qui se décale, qui veut essayer d'attaquer Mentor de Play, mais qui est dur à l'effort. Extérieur, vous avez un cheval qui termine bien aussi, c'est le numéro 9 Moustique Lagovelle, entrée de la dernière ligne droite avec pour l'instant 3 chevaux de fond, avec vous avez Mentor de Play qui essaie de repartir, Mac de Blary qui est à l'extérieur, faute à l'extérieur du cheval qui avait pris l'avantage hein, malheureusement Moustique Lagovelle qui était pas loin de la victoire à mon avis, et finalement on repart en dedans avec Mentor de Play, 3 des favoris qui se battent pour la victoire, et Magic Man qui finit à toute allure à l'extérieur et qui va venir remporter ce quintet. Magic Man finalement dans une dernière accélération, le numéro 11, le deuxième favori pour être exact, mais c'est une arrivée de favoris hein. Magic Man le numéro 11 qui remporte ce quintet, la deuxième place qui revient en dedans pour Mentor de Play numéro 8 qui a été très dur. Mac de Blary, le 14, va prendre la 3e place. En retrait, il me semble que c'est Maître Jacques, le numéro 13, qui va prendre la 4e place. En net retrait, hein, les trois chevaux de tête ont pris quand même assez l'avantage. Et la 5e position, j'essaye de voir en dedans. Écoutez, pour l'instant, c'est peut-être le numéro. Ah, j'arrive pas à voir, je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc pour l'instant, on a les 4 premières places de ce quintet. En tout cas, Magic Man qui s'impose, Eric Raffin pour l'entraînement d'Étienne Dubois. J'ai l'arrivée. 11. 8, 14, 13 et 7. 11, 8, 14, 13 et 7. Arrivée provisoire pour ce prix. Jules Thibault à Vincennes. On se retrouve à 16h pour l'arrivée définitive et le rapport de ce quintet. À tout à l'heure.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci Dimitri. Un point également sur nos directs. Le Final Four, la première demi-finale de la Ligue des Champions féminines en handball entre Metz et Bucarest. Kevin Morand.
Et 18 minutes de jouer ici à Budapest et Metz enfin a pris les devants, plus 3 pour les Messines, 6-9-6. Donc après un premier quart d'heure vraiment tendu où personne n'arrive à se détacher, Sayel et Lorraine ont creusé un petit écart, plus 3 donc 9-6 après 18 minutes de jeu.
Et domination stérile des Belges face aux Tunisiens dans un match de préparation en vue du mondial. Jean Baumel.
On est quasiment à la 20e minute, 0-0 pour l'instant. Il y a eu en plus deux occasions avec Trossard qui ne cadre pas. Et bien, bon coup franc de Kevin De Bruyne, bien sorti par le gardien tunisien Mouhib Chamakh. Donc, domination des joueurs belges avec petite occasion, une petite tentative de Reiki qui ne cadre pas. C'est au-dessus, mais pour l'instant, les Diables Rouges sont bien dans ce match, mais ça fait 0-0.
15h22 sur RMC. Merci d'être avec nous. Maya Rvalinska et Mira Andreeva pour la finale d'Ama Roland Garros sont à l'échauffement. On va suivre cette finale dans un instant, juste après une toute petite page.
RMC Intégral Sport.
Johan Bredov.
15h25 sur RMC. Merci d'être avec nous dans l'Intégral Sport. Dans un instant, le début de la finale d'âme entre Mira Andreeva et Maya Rvalinska. Mais d'abord, un point sur la demi-finale de Ligue des Champions féminines en handball. Ça se passe très bien pour Metz face à Bucarest. Kevin Morand.
Ouais, 23 minutes tout juste de jeu ici dans cette première période de cette demi-finale. Et Metz donc est à plus 3 toujours comme avant la pub, plus 4 maintenant avec ce nouveau but de Tira Axner pour les Messines. 14-10 donc pour Metz après 24 minutes de jeu. Les Roumaines ne sont pas en grande réussite offensive dans ce début de match et c'est tant mieux donc pour ces Messines qui cherchent toujours après 5 participations à se qualifier pour la première fois en finale de cette Ligue des Champions.
Merci Kevin, c'est parti donc pour cette finale à Roland Garros entre Mira Andreeva et Maya Rvalinska qui est au service, la Polonaise Eric Salio, Sarah Pitkowski, avec un vent qui a peut-être gêné justement ce premier service, cette première mise en jeu de Rvalinska. Eric.
Ouais, elle a commis une double faute, la joueuse polonaise. Bon, c'est peut-être dû au vent, mais Sarah est allée enquêter. Apparemment, le vent souffle par bourrasque. Il peut s'arrêter peut-être dans la seconde qui suit. Donc, c'était assez curieux. Mais à l'échauffement, c'était criant. C'était très compliqué.
Ça tournait dans tous les sens. Là, oui, ça a un petit peu baissé en intensité. Et là, on a eu un premier échange intéressant entre les deux joueuses qui s'observent. Et
Maya
est
revenue à 15 avec une balle à pleine ligne. Mira Andreeva a effacé la trace pour ne pas
pour
avoir
oublier.
De doute, pour oublier. Ouais, donc 15 à premier jeu. Et on rappelle que ça se joue donc sans le toit, puisque le soleil est revenu. Mais c'est vrai que le vent est malheureusement très présent. Et ça me rappelle un peu les conditions de jeu du match de Zabalenka
contre Gauff
l'an dernier. Ouais, dernier ouais.
Ou contre, effectivement.
Donc on va voir comment elle va aborder un retour à août de Andreeva. Alors, c'est curieux, Sarah, parce qu'elle ne sert pas très fort.
Mais. Encore une fois, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il est plus facile pour une joueuse de contrer que d'imprimer sa propre vitesse. Donc, si le service est long et il n'y a pas de consistance, eh ben, il faut faire attention, il faut mettre de l'effet. Mais on ne peut pas juste bloquer, faire un retour bloqué.
Non, il faut vraiment qu'elle soit vigilante, puisque là, le service de la Polonaise était chronométré à 136 km/h, ce qui est ridicule. Et on a regardé les moyennes d'Andreeva, c'était 178 en premier service, donc il n'y a vraiment rien à voir. Et là, elle est en train de faire sa petite cuisine, Raliska, avec du stade et l'amorti, première amorti.
Mais Andreeva est à l'intérieur du cours.
Et oui, voilà.
Mais Andreeva était à l'intérieur du cours, déjà sur l'échange. On la sent sur les pointes de pied et elle ne va pas rester les pieds sur la ligne. Comme elle va s'attendre aux amortis, eh bien, sa position de replacement, eh bien, elle l'a déjà avancé à l'intérieur du cours.
Ça, on reconnaît, je pense, la patte Conchita Martínez.
Exactement.
Non, mais c'est vrai que c'est important. Hein. Oui. En plus, elle joue avec vent dans le dos, en principe, Andreeva. Donc, elle a tout intérêt, effectivement, à changer ses petites habitudes au niveau du replacement. Donc, premier jeu, 30A. Peut-être une balle de break à venir, déjà, pour la tête de série numéro 8, l'immense favorite de cette finale. Mais on sait que les nerfs, ça joue un rôle très important. Et là, on va voir comment elle va gérer cette attaque. Encore une amortie. Oui, celle-là, elle est belle aussi. Elle est encore dessus. Ah oui, là, elle s'est fait prendre. Oh, c'est magnifique.
Oui, elle a été freinée par le vent, puisqu'elle est contre le vent. Bien joué.
Et ça aboutit à tout rompre dans le clan de la Polonaise, donc côté droit par rapport à notre tribune, notre petite cabine RMC. Il y a beaucoup de personnes dans la tribune, dans le box de Raliska. Bon, c'est vrai que dans la box de Andreeva aussi. Il faut dire que la famille de Andreeva vit sur la Côte d'Azur. Hein,
ah, bien sûr.
Ça aide. Hein. Allez, 40-30. Donc, balle pour faire un premier jeu. Encore un slice de la Polonaise. Ah, elle va lui mener la vie très compliquée. Hein. Là, ça
oui,
sort 40.
Mais ça, c'est un peu long. Quelques petites précisions sur le tennis d'Andreeva. Et ce que j'observe tout de suite, c'est qu'elle colle au rebond. Et elle n'attend pas que le rebond vienne à elle. Parce que quand vous avez des conditions atmosphériques qui sont changeantes, eh bien, il faut coller au rebond pour que vous puissiez ajuster si la balle s'arrête ou elle rebondit différemment. Et encore plus quand vous avez une adversaire qui joue avec les effets. Parce que Raliska, elle lift, elle slice, elle joue à plat, elle utilise tous les effets du tennis.
Allez, 40 à peut-être la première balle de break à venir.
On voit qu'elle est avec le vent. La balle va beaucoup plus vite. Balle de break.
Un gros coup droit, bien profond, qui a touché quasiment la ligne des couloirs sur le coup droit de Raliska qui s'est montré très vite débordé. Là. Donc balle de break à venir pour Mira Andreeva. Ça peut être le début de finale rêvé pour la Russe, parce que je pense qu'elle craignait le début de match, elle craignait les coups de patte de son adversaire. Attention, le passing, là, le passing. Volée amortie, c'est magnifique. Oh. Quelle main elle a !
Elle est venue au filet, c'est courageux. Le premier service, c'était la petite page de gauchère, le slice croisé court pour enchaîner dans le terrain libre. Bien vu.
Non, mais c'est là où elle est intéressante, Raliska, pour le tennis féminin. C'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir comme
exactement.
Ça, des services volés, aller monter comme ça, belle patte de gauchère pour ouvrir. Et cette volée amortie, elle est exceptionnelle.
Elle est magnifique.
Et t'imagines en face, le cerveau, il commence à fumer.
Ah oui, déjà, ouais.
Pas encore.
Je te dis, ça fume.
Elle a
ça
fait 5 courses vers l'avant, déjà.
Non, elle est dans son match, Andreeva. Elle est très concentrée. Et je vois dans la manière dont elle joue et comment elle se place par rapport à la balle.
Que... Des balles bombées maintenant. Elle joue jamais deux coups pareils. C'est ça qui est fabuleux. Mais elle s'est slicée aussi, Andreeva. Encore une amortie, ça sort là.
Couloir.
Avantage, Andreeva.
Troisième. On va faire comme hier.
À chaque fois, revers. Hein. Ouais. À chaque fois, avec sa patte.
Je compte les amortis.
Hier,
une,
c'était
deux,
extraordinaire, Mensik. Hein.
Ouais.
Je pense que le plan de jeu était bon. Et ça a posé des problèmes à Zverev.
Il aurait fallu qu'il
prenne le break au milieu du premier. Ouais. Ça aurait pu changer la physionomie de cette première
nuit. Il était un peu fatigué quand même.
Nouvelle balle de break donc à venir pour Mira Andreeva, donc qui joue avec le vent dans le dos, mais qui déjà a un aperçu de la cuisine polonaise avec une première balle plein centre et Andreeva qui monte qui déborde son adversaire.
C'est-à-dire qu'en plus, ce qu'elle sait faire et ce qui est intéressant, c'est quand la balle est courte, elle est capable aussi d'imprimer de la vitesse. Et comme elle est très précise, eh bien, cette accélération de coup droit long ligne, eh bien, sans prendre trop de risques, lui permet de recoller à 40.
Bon, on aurait pu se poser la question.
Il y a un peu de Lillois dans le jeu de Kalinska.
Oui, tout à fait.
On aurait pu se poser la question d'avoir de la peur d'avoir une finale très rapide. Bon, 6 minutes déjà pour un premier jeu, c'est pas mal.
Oui, t'emballes pas.
Si, on en a pour notre argent.
Pardon d'avoir envie de rêver.
Allez, bonne première balle cette fois-ci. Encore un slice. C'était
slice long dans la diagonale.
Mais bon, Andreeva
va passer. Et elle passe par le revers lifté. Et Andreeva, elle est près de sa ligne. Hein. Elle se laisse pas prendre par les rebonds. Elle est à l'intérieur du court, Andreeva.
C'est fou. Hein. Allez. Elle n'ose pas accélérer encore si elle accélère, mais ça revient avec une balle bombée. Oui. Là, elle va accélérer.
C'est bien joué.
Elle c'est exactement ce qu'elle doit faire.
Elle a bien accéléré avec la balle au-dessus de l'épaule.
Nouvelle balle de break, la numéro 3. Hein. C'est ça, Sarah. Hein.
Oui.
Troisième balle de break dans ce premier jeu de cette finale qui s'annonce palpitante vu l'opposition de style. Et c'est exactement ce à quoi on s'attendait. Hein. Mmh. Là, pour une fois, on n'est pas pris de court. Mais bon, quand vous êtes habitué à jouer comme ça, vous n'allez pas tout changer du tout, surtout en finale de Schlem. Donc, troisième balle de break, qu'est-ce qu'elle va choisir comme zone, Maya?
Elle continue le revers avec le slice de la gauchère.
Pour l'instant, elle va peut-être subir la puissance d'Andreeva. Balle bombée, ça rebondit très haut. Hein.
Et là, c'est un revers croisé court.
Bien remis. Les deux filles qui deux.
Ça, ah, et voilà, le break. Elle a pris la balle tôt. En fait, elle ne se laisse pas prendre par le rebond. Elle vient coller au rebond, quitte à prendre la balle au-dessus de l'épaule. Et comme ça, elle prend un petit peu de temps dans le replacement de Ralinska. C'est bien joué.
Elle le fait bien. 1-0.
Et c'est bien joué, c'est accéléré, mais sans prendre trop de risques.
Elle est mature.
On voit bien la tactique d'Andreeva. Et ça a été parfaitement préparé.
À voir maintenant comment elle va jouer avec le vent contre elle.
Oui.
Mira Andreeva qui sera au service. Premier break donc dans cette finale dames entre Maya Ralinska et Mira Andreeva. Premier break pour la Russe qui mène un jeu à zéro. On revient dans un instant suivre cette finale. Juste un détour par nos directs et notamment un but pour les Belges face à la Tunisie. Jean Baumel.
Ah exactement. Les Belges ont ouvert le score il y a quelques instants avec un gros travail de Jérémy Doku qui a encore le ballon et qui a bien servi Leandro Trossard qui a eu beaucoup d'occasions et qui cette fois le gardien était s'était précipité et avait plus qu'à mettre le ballon au fond des filets. Les Belges qui mènent logiquement 1-0 et franchement c'est pas cher payé pour la Tunisie parce que derrière il y a une frappe de De Bruyne détournée par Mouib Chamakh et on a vu la tête de Mekele il y a quelques instants sur la service de De Bruyne qui est passé à côté. Donc grosse domination des Diables Rouges alors qu'une averse assez impressionnante se déverse sur la capitale belge. 1-0, il reste un quart d'heure en première mi-temps.
Mais qu'est-ce que la Belgique s'enfuit sans Bonnel? Évidemment. Metz face à Bucarest, le Final Four, la première demi-finale de Ligue des Champions féminines. Ça se passe bien pour les Messines. Kevin Morand.
Oui, 8 secondes à jouer dans cette fin de première période. Plus 4 pour Metz, 17 à 13. Au score, le jet de 7 mètres vient d'être marqué à l'instant par Sarah Bouktit, la pivot de cette équipe et la mi-temps. À l'instant, donc, sur ce score de 17 à 13 en faveur de Metz, qui est bien positionné après 30 minutes pour rejoindre enfin la finale, notamment grâce aux arrêts. 7 arrêts pour Bunsen, la gardienne de cette équipe messine, qui a même marqué aussi un but tout à l'heure. Donc, 17 à 13 pour Metz à la mi-temps face à Bucarest.
Et début parfait donc pour les Messines. Merci, Kevin. On te retrouve tout à l'heure pour la seconde période de cette première demi-finale d'un club français en attendant Brest face à Győr. Les Messines qui mènent de 4 buts. Retour à la finale dames sur le court Philippe Châtrier. Ça, c'est compliqué au service pour Mira Andreeva qui avait breaké dans le premier jeu mais qui cette fois se fait dominer dans l'échange par la Polonaise Eric Salio Sarah Pitkowski.
Oui, 1-0 Andreeva mais 0-30 effectivement sur son service. Alors c'est vrai qu'elle sert vent contre donc c'est compliqué. Mais là, elle est en train de peut-être de dominer son adversaire, mais on sent qu'elle veut pas. Oh, main droite. Elle a remis une balle main droite encore une fois et amorti cette fois-ci d'Andreeva. Ah, c'est bien joué. Oui. Mais elle est fabuleuse cette main droite. Oui, elle le fait souvent quand elle est un peu prise de vitesse. Hop, exactement. Elle change de main et elle remet. En fait, elle est comme Dembélé quoi.
Ouais, main droite, main gauche.
C'est-à-dire main droite, main gauche.
Ah oui, bien sûr. Droitier, gaucher.
Pied droit, pied...
Oh, je suis droitier.
Non, là, elle est quand même vraiment gauchère. Gauche. Mais oui.
Pied gauche. Ah oui, mais c'est pas grave ça. Non, mais elle a un truc en plus, quoi. C'est un génie.
Elle est bien masquée, cette petite amortie de Mira Andreeva. Elle est bien masquée parce qu'elle n'était pas si bien touchée. Hein.
Absolument.
Elle
a touché la ligne de carré de service, mais Radinska n'avait absolument pas lu ça. Attention, là, il y a une bonne opportunité. Non, ça sort 15-40. Là, elle s'est trouée, là, parce que c'était une attaque assez facile. Elle a voulu prendre très, très tôt la balle, Sarah. Hein.
Oui, elle a voulu jouer dans le contre-pied, alors qu'elle avait le terrain de l'autre côté libre. Elle aurait pu enrouler son revers croisé. 15-40. Et on sent quand même qu'il y a là, il y a du vent. Hein. On voit bien la différence. Andréva joue contre le vent.
Je pense que les deux filles prient pour qu'il pleuve, comme ça ils mettront le toit. Non, mais je suis sûr que ça a rentré Andréva.
Mais
je pense que Ralinska, elle, ça la dérange pas tant que ça, parce qu'elle est tellement habile.
Le vent, ça avantage pas les joueurs et joueuses plus techniques.
Eh oui, je
pense. Ouais, c'est ça.
30-40. Mais là, quand ça souffle par Bourrasque, quand même, ça. Bon. On a eu un débat dans cours numéro 1, notre podcast, il y a quelques jours, sur la notion de spectacle. Moi, je trouve que quand ça souffle trop, alors vous allez me dire, ouais, mais attendez, il faut s'habituer, il faut s'adapter. Oui, d'accord, mais quand tu es dans une finale de Chelem, tu veux voir du beau tennis quand même. Si
tes
filles
ne
peuvent pas.
Comme tu veux.
On n'est pas d'accord avec ça.
Oui, non, on n'est pas d'accord.
On va pas se réconcilier aujourd'hui, mais bon, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Bon, là, ça va, c'est encore jouable. Mais moi, j'ai souvenir de matchs à l'US Open, un Federer-Gasquet, mais c'était injouable. C'était vraiment injouable. Et bon, Federer avait gagné parce qu'il avait su s'adapter, mais je me souviens que Richard Gasquet n'avait absolument rien pu faire. Balle de break numéro 2 donc pour la Polonaise dans cette finale. Et là, ça joue Moonball, comme on dit, c'est des balles très très hautes. C'est les 2-6 mètres, c'est fabuleux. Ah, c'est du tennis du dimanche matin.
Ah, c'est le terre battue du dimanche, ça.
Et elle monte, Andréva. Oui. Non, elle peut pas monter. C'est un superbe échange. Ralinska qui résiste. Et ça sort à partout.
Mais alors, il n'y a aucun point facile. Hein. Il n'y a que des échanges, des rallyes où on se teste, on essaye de se surprendre, de jouer à contre-pied, de changer les trajectoires. Il y a une belle bagarre de prise de position là, pour l'instant.
Quel QI tennis quand même chez Maya, c'est fabuleux. Et je me mets 2 secondes à la place d'Andréva. Ça va pas être facile, hein. On sait qu'elle a. C'est une fille qui peut dégoupiller à tout moment. Là, le vent, l'adversaire, la tension, c'est une finale de Chelem. On peut déboucher sur un truc assez inouï. Donc, un partout après 13 minutes de jeu. On se régale. Non, c'est une belle finale parce que l'opposition de style est parfaite.
Ouais, c'est vrai que c'est assez incroyable de voir ces deux joueuses, la puissance d'un côté de Mira Andreeva, la technique et la finesse de Maya Radinska qui est donc au service pour essayer de gagner pour la première fois de la partie finalement.
Elle commence par
encore une
mise en
jeu.
Lors du premier
jeu. Ça va être quand même son petit point faible. Hein, oui. Parce que.
Elle dépasse rarement les 135.
Oui. Et mine de rien, Andréva peut aussi venir retourner en frappant et en prenant de vitesse. Donc, elle doit sentir un peu de pression aussi des retours d'Andréva.
Ouais, c'est une option, effectivement. Là, le retour est très bon. Et donc, c'est elle qui dicte l'échange. Mais Ralinska, avec sa patte gauche, pour l'instant, résiste assez tranquillement. Elle est très sûre côté revers aussi quand elle le joue à plat. Et là, elle appuie. Voilà, avec son coup droit, c'est décalé.
Oui. Et je comprends qu'elle ait des bandages sur les deux cuisses parce que quand on regarde la position de Ralinska entre les points, elle a les jambes très écartées. C'est-à-dire qu'elle est prête vraiment à partir à droite ou à gauche. En tout cas, elle a une reprise, une position d'attente où elle est très basse sur les jambes et donc ça doit aussi être très éprouvant pour les cuisses et les adducteurs.
Elle a un jeu de jambes fabuleux, hein.
Ouais, petit jeu de jambes d'ajustement.
Petite mobilette, quoi.
Elle mesure combien, Eric ?
1,64.
Ouais.
Ah, elle est petite, ouais.
Ah oui, non, c'est un petit modèle. Hein.
Par rapport à Andréva, qui est bien, bien plus grande que Ralinska, ouais.
Rien à dire.
Là, c'est là, on part encore sur un énième rallye. Il n'y a pas une faute directe. Hein. C'est vraiment des constructions de points.
Et puis quand elle est en difficulté, elle remet.
C'est bien joué pour Andréva. Elle a raison.
La ligne en revers,
la balle est courte. Elle a raison quand la balle est courte de ne pas se poser de questions, Andréva, de pousser et de venir au filet.
15-30.
Très bon niveau de jeu pour ce début de partie. Évidemment, les deux joueuses ont du mal à garder leur mise en jeu, qu'ils n'ont pas gardé d'ailleurs sur les deux premiers jeux de service. Mais c'est vrai qu'on voit énormément d'échanges, de longs rallyes. Un match très plaisant pour le moment dans cette finale dames entre Maya Ralinska et Mira Andreeva.
C'est très plaisant, c'est très tactique. Donc, moi, ça me convient
tout
à fait.
Et on voit des visages. Hein, je regarde aussi en même temps. Les visages sont très, très concentrés.
Ben oui, parce qu'elles doivent réfléchir. Elles ont tellement de solutions qu'elles doivent réfléchir. Alors, quelle zone? Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Ça cogite beaucoup sur deux jeunes filles très, très intelligentes. Donc c'est pour ça qu'elles ont besoin d'être concentrées. Mais là, ça fait 15-40. Attention, elle était prise de vitesse. Là, Maya, un partout, 15-40. Elle va peut-être céder une deuxième fois sa mise en jeu, alors qu'elle a normalement vent dans le dos.
Mais bon, que ce soit vent dans le dos ou vent contre, c'est pas facile de gérer ce genre de situation. De toute façon, elle peut pas être aidée, comme je vous l'ai dit. Elle en voit rarement à plus de 135. Mais là, on voit sur sa jupette, ça souffle beaucoup. Hein. Enfin, c'est pas une jupette, c'est un short, mais ça souffle. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Faut vraiment s'adapter. 15-40. Première balle très très loin derrière. Attention, là, elle va prendre sa chance. Mira Andreeva, en principe. Elle est pour l'instant juste derrière la ligne de fond de cours, mais dès que la polette va déclencher, elle va peut-être faire un petit pas pour rentrer dans le cours. Non, même pas. Allez, c'est parti en retour, qui a failli prendre le filet, mais ça joue. Très appliqué, Andreeva, veut pas commettre la faute. Petit slice de la polonaise. La balle qui s'enterre, c'est énorme. Mais elle est là, elle est là. Ça joue long, là, chez Mira Andreeva. Revers long ligne, out. Ouais. 30-40.
Elle a été prise un peu par cette balle montante sur revers. Elle aurait peut-être dû continuer à jouer dans la diagonale, mais elle a voulu ouvrir. Est-ce qu'il lui a valu une balle dans le couloir?
30-40. Donc, nouvelle balle de break à sauver. Tout à l'heure, elle avait sauvé la première déjà, mais sur la deuxième, elle avait craqué. On va voir ce qu'elle va choisir comme zone de service. Donc, elle sert côté gauche, donc gauchère. Elle peut aller chatouiller le revers de Andreeva si elle le désire avec un slice, comme le fait si bien Adrien Manarino. Il vous envoie dans les panneaux publicitaires, lui. Bon. Niska n'en est pas encore là, mais elle est capable de trouver des angles assez incroyables. Elle s'y reprend deux fois avec son lancer de balle. Non, plein centre, out. C'est bizarre ce choix de sur le corps, comme on dit. Bon, c'est vrai que ça peut être une option. Attention à la deuxième balle. Balle de break, donc, pour Andreeva. Elle est toujours derrière sa ligne. Hein. Mira, elle ne veut pas prendre de risque. Allez, encore plein centre. Bon retour.
Ouais, c'est bon retour croisé. Elle s'est un peu ouvert le court.
Bah là, il faut être patient. Je crois que ça va être un long rallye, Sarah, tu crois pas?
Comme tous les points d'ailleurs. Hein. Je crois qu'il n'y a pas un point en dessous de trois frappes de balle. Hein.
Bien joué. Petit slide de défense de Andreeva. Elle monte
au
Chaleska.
Le lob.
Il n'est
pas facile. Elle le laisse tomber, elle a raison. Tomber.
Elle va aller mieux. Ouais. Oh là là, elle a boisé.
Elle a boisé. Ça fait deux fois qu'elle boise en coup droit.
Deux.
Andreeva est très calme, très posée. Et elle break une deuxième fois. La toute. Jeune polonaise.
Trois jeux, trois breaks donc dans cette finale dame entre Mira Andreeva qui mène 2-1 et Mara Rvalinska. Donc dans un instant on suivra la fin de la suite de cette finale dame à Roland Garros. Juste un point en Belgique à Bruxelles, match de préparation pour la Coupe du Monde Belgique Tunisie. Jean Baumel.
Toujours 1-0 pour les Diables Rouges. Il reste 2 minutes avant le retour au vestiaire. Le buteur, c'est Leandro Trossard. Je peux vous dire que à Kevin De Bruyne, on voit qu'il est en grande forme, hein, lui qui était revenu de blessure en mars. Donc c'est une attaque assez intéressante pour les Diables Rouges avec notamment Jérémy Doku et puis Leandro Trossard. Donc le buteur pour l'instant de cette partie 1-0. C'est logique de voir les Belges devant.
Et je vous rappelle qu'on est à la pause de la demi-finale de Ligue des Champions féminine en handball. Metz mène 17-13 face à Bucarest. 15h45 sur RMC, restez bien avec nous. On revient dans un instant pour la suite et fin de l'Intégral Sport.
RMC Intégral Sport.
Johan Bredov.
15h47 sur RMC, merci d'être avec nous. Je vous rappelle que dans la demi-finale de Ligue des Champions féminines, Metz mène 17-13 face à Bucarest. On est à la pause. La Belgique mène toujours 1-0 face à la Tunisie en match de préparation pour la Coupe du Monde. Mais on suit surtout la finale dames à Roland-Garros entre Maya Rvalinska et Mira Andreeva avec Eric Salio et Sarah Pitkovski, la Russe, qui est au service, Eric.
21 minutes de jeu sur le central qui est baigné de soleil, mais un central très vanté. Donc 2-1 pour Mira Andreeva, mais balle de débreak à venir pour Maya Rvalinska, Sarah. Les deux jeunes filles qui ont beaucoup de mal à s'exprimer à cause des conditions de jeu qui sont très venteuses, on le répète. Et là, la Russe a commis une double faute dans ce jeu et ça la met donc en difficulté 30-40.
Et une première qui est très très longue là, elle serre avec le vent, la Russe. Attention à cette seconde. Encore une double faute. Autant dans l'échange, elles arrivent à contrôler, mais autant au service,
c'est compliqué,
ça a l'air d'être compliqué. Hein, le lancer de balle part dans tous les sens.
De partout, donc.
Et pour ça, d'ailleurs, qu'elle change de raquette. Ah non, elle ne change pas de raquette, mais.
Ah, mais bon.
Apparemment, peut-être.
La qualité de jeu, malheureusement, n'est pas totalement au rendez-vous à cause du vent.
Il n'y a pas de faute, hein. Elles construisent bien leurs points, mais on sent qu'au service, c'est compliqué à. C'est compliqué à manager.
4 jeux, 22 minutes. Hein. 22 minutes de jeu.
On est sur de bonnes bases.
C'est quand même dingue. Tiens, on va aller voir le hand. Ça a repris pour la seconde période de la demi-finale de Ligue des Champions. Kevin Morand, Metz face à Bucarest.
Oui, c'est pas encore tout à fait reparti. Ça va reprendre dans un instant. On est donc à ce score de 17 à 13, plus 4 en faveur des Messines. Début de match tendu et puis finalement à partir de la dixième minute, elles ont commencé à creuser un petit écart. Elles ont compté jusqu'à 5 buts d'avance et donc 4 à la pause. Ça va reprendre encore dans quelques instants ici à Budapest entre Metz et Bucarest. Et donc ce score à l'avantage des Messines, 17-13.
Direction Bruxelles pour suivre ce match entre la Belgique et la Tunisie. On est proche de la mi-temps, Jean Baumel.
Exactement, toujours 1-0, on est dans le temps additionnel, il reste 10 secondes. Carton jaune pour Rudy Garcia, protestation envers l'arbitre. Bah, je pense qu'il était pas content parce qu'il y a un joueur tunisien qui va faire un séché Jérémy Doku qui sera très important forcément dans l'attaque belge dans cette Coupe du Monde. Et c'est la mi-temps à l'instant même. Tout va bien pour Doku, mais il était étincelant sur cette première mi-temps. Comme Kevin De Bruyne, la Belgique qui mène logiquement 1-0, ça aurait pu être beaucoup plus lourd pour la Tunisie. Le buteur, Leandro Trossard à la 28e.
La préparation se passe bien pour les Belges. Merci Gibault, la suite de cette rencontre avec Christophe Cessieux qui prendra ma place dans 10 minutes. Retour à Philippe Châtrier, Roland Garros, Eric Salio, Sarah Pitkovski.
Et magnifique avec la spéciale Chwalinska, amorti, lob. Ça fait mal au cerveau de l'adversaire parce que c'est parfaitement exécuté. Ça soulève le public avec des drapeaux rouges et blancs qui se dressent et ça fait de partout, 40-0, Sarah, pour la polonaise. Hein.
Pour la première fois, la serveuse est en position de remporter son jeu de service.
C'est presque
donc
un break.
On va appeler ça un break.
C'est
aujourd'hui.
Ça, ouais, je suis d'accord avec toi, Sarah.
On appelle ça un break.
Allez, et là, on va guetter peut-être les premiers signes de frustration de Mira Andreeva, parce qu'elle avait, je veux pas dire qu'elle avait match en main, mais c'est vrai
qu'elle ne va pas s'agacer, Eric. Non, elle a été préparée à ce match très compliqué.
Écoute, je demande à voir.
Ça veut pas dire qu'elle va gagner, mais je pense que c'est pas ce qui va la faire sortir du match.
Elle est chahutée dans l'échange.
Contre-pied parfait.
3 jeux à 2. En fait, j'ai l'impression que tu joues mieux contre le vent. Et là, on l'a vu, elle a gagné ses deux jeux côté donc tribune de presse, on va dire. Ouais. Et donc 3-2 pour la polonaise. Je vais quand même guetter Mira Andreeva parce que là, elle vient de faire quand même 5 minutes pas terribles.
Ouais, ça a été compliqué pour Mira Andreeva et Sarah, on en parlait, mais un petit break en fait. Hein,
c'est un break de fille.
Ouais, c'est ça,
c'est
exactement.
Un break de jeu. C'est un break de joueuse de tennis dans des conditions très compliquées où la puissance au service, eh bien, comme elles ne l'ont pas naturellement, eh bien, la balle, elle prend plus les effets du vent. Donc c'est compliqué de servir. Mais 3-2, rien n'est joué. Et moi, je ne suis pas d'accord avec Eric. Je pense qu'on ne va pas avoir une Andreeva qui va sortir de ses gonds. Elle s'est préparée à ce match-là. Et de toute manière, s'il y a une chance qu'elle remporte le match aujourd'hui ou qu'elle retourne une situation compliquée, ce sera uniquement parce qu'elle reste très concentrée et qu'elle ne s'agace pas de la situation.
Oui, je suis d'accord avec toi. Mais si.
Bah voilà.
Si, attends. Si Hralinska continue à faire sa petite cuisine avec cette séquence amortilobe qu'elle maîtrise comme personne, je veux voir. Tiens, j'en profite pour dire qu'on connaît le champion junior. Ah. Et c'est un garçon dont on reparlera parce que je suis allé le voir jouer. Qu'est-ce que ça cogne fort? C'est un Brésilien.
Encore.
Luis Guto Miguel.
Ah oui.
Très, très fort. Il vient de battre un Américain en 2-7. C'était sur le court Simone Mathieu. Retenez ce nom. Luis Guto Miguel, sa bouille ressemble à celle de Rafa Nadal quand il était jeune. Donc ça promet.
Ah ouais, c'est pas mal quand même. belle comparaison.
Premier point de ce sixième jeu avec
et
un lob de défense.
Et c'est Andreeva qui vient de faire amortir.
Ah bah là, elle est prise par le vent, la polonaise. Elle a voulu remettre une balle tranquillement, mais elle n'avait pas mis d'effet. Donc elle est sortie de 3 mètres. Ça fait 15-0. Donc 3-2.
Mais belle séquence de jeu de la Russe qui a joué le même tennis que son adversaire sur ce point.
Ça confirme, Sarah, toi qui as été joueuse professionnelle, je crois que c'est plus facile de jouer vent contre.
Oui, c'est plus facile de se lâcher vent contre, ça c'est sûr. On ne retient pas le bras, contrairement à la position avec le vent. Où,
ah oui, le vent, tu peux prendre une bourrasque à tout moment, ouais, tu sais que ça va sortir, donc c'est compliqué. Allez, 15-0, cette fois-ci pas double faute, avec un retour assez court de la part de la polonaise. Elle attaque, elle essaie d'attaquer. Et c'est Andreeva qui, pour l'instant, dicte l'échange. Elle mitraille un peu le revers de son adversaire. Mais là, elle temporise avec une grosse balle bombée au centre. C'est aussi son style de jeu, Andreeva. C'est une fille qui est capable de varier. Là, elle a un peu prise de vitesse. Et Andreeva va attaquer. Non, filet, 30-0. Oui,
filet, c'est rare. Hein. Oui. C'est rare ces erreurs de la part de la polonaise de Hralinska. Mais Andreeva eh bien, donne pas trop de cadence. Hein. Elle arrondit, elle aussi, elle prend de la sécurité, mais elle donne pas de naturellement de puissance pour que Ralinska s'appuie dessus.
Oui, voilà, c'est ça.
Et une balle molle.
Elle craint ça.
Et oui, c'est elle a besoin d'un poids dans la balle pour qu'elle puisse s'appuyer dessus. Mais quand elle doit le mettre elle-même, c'est plus compliqué. 30-0 Andreeva. Qui est au service, 3-2.
Donc c'est bien joué de la part de la Polonaise, c'est bien remis, mais là, elle va s'en prendre là.
Et non, pas sûr.
Si, 30-15. Elle trouve des zones incroyables.
Ouais, c'est dingue. Mais surtout qu'elle, pour ce petit gabarit, elle n'a pas peur de venir au filet. Alors elle vient au filet de plein de manières différentes. Là, elle le fait avec un slice décroisé de coup droit. Et puis elle vient aussi au filet quand elle suit des balles arrondies, oui, bombées à contre-temps.
C'est génial. C'est,
moi, j'adore ces montées à contre-temps. Et elle vient effectivement assez souvent au filet.
Parce que ça surprend l'adversaire.
Et elle a 100% de réussite au filet.
L'adversaire ne la voit pas venir. C'est ça qui est génial. Au moment où l'autre déclenche sa frappe, elle est déjà au filet, quasiment. Donc c'est très perturbant. Non, mais cette fille, c'est un poison. Hein. Bien sûr, c'est pas péjoratif, mais je revois les paroles de son coach jeudi soir. Et il dit ça avec un petit sourire. Elle met les autres dans l'inconfort. Bah oui, c'est exactement ça.
Bah, c'est ce qu'elle est en train de faire avec des balles très très hautes.
Elle est repartie avec son slice. Ça prend la ligne.
C'est incroyable. Ouais,
André va acheter un coup d'œil, mais ça a blanchi.
André va jouer long, hein, mais ça suffit pas. Mais elle attend, elle est patiente.
Elle varie les croisés longs.
Là, il y a une ouverture. Qu'est-ce qu'elle fait?
Bien joué. C'est parfait.
40-15.
Elle a pris son temps. Elle est allée au contact. Elle a surtout évité d'attendre. Elle est allée au rebond de la balle pour pouvoir avoir le temps d'enrouler sa frappe.
Elle est calme.
40-15.
Hein. Très calme, Mireille.
Mais pour l'instant, elle est calme.
Mais qu'est-ce que je vous ai dit?
Merci.
Pour l'instant.
Je vous dis qu'elle le sera.
Tu verras quand elle sera amenée 6-4. Tu verras si elle sera calme.
On en reparlera. D'ailleurs, on n'est pas d'accord avec
Si elle
Eric.
Perd le premier set, Sarah, elle va prendre une pause toilette, tu le sais.
Et alors? Pour se rafraîchir.
Pour se calmer.
Et un ace.
Trois partout.
Après, et voilà un autre break. Un autre break féminin.
Trois partout, donc, entre Hermaninska et Mira Andreeva dans cette finale dame à Roland-Garros. Merci Eric, merci Sarah. On vous retrouve dans un instant avec Christophe Cessieux qui va prendre la place pour continuer à vivre cette finale à Roland-Garros en attendant celle de demain entre Zverev et Koboli chez les hommes. Un point également sur nos autres directs et surtout sur cette demi-finale de Ligue des Champions féminines en handball. Metz face à Bucarest, ça se passe toujours bien pour les Messines. Kevin Morand.
Oui, parce qu'en plus là les Roumaines viennent de manquer un jet de 7 mètres et donc cet écart qui reste à plus 4 pour Metz, 19-16. On joue depuis 5 minutes dans cette seconde période.
Merci Kevin, toi aussi on te retrouve avec Christophe Cessieux qui prend ma place à l'instant. 15h57 sur RMC. Restez bien avec nous pour continuer à vivre notamment cette finale à Roland-Garros. Trois jeux partout entre Maya Hrvalinska et Mira Andreeva. Restez bien sur RMC.
RMC Intégral Sport.